With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous, amis iOS, bonjour et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, c'est le podcast bimensuel, vous le savez, où on vous parle technologie, internet et gadgets. Et aujourd'hui, on est alors soit gâté, soit énervé, parce qu'on vous parle du CES, principalement du CES, l'énorme salon de l'électronique qui a lieu aux États-Unis tous les mois de janvier. Alors, je dis émerveillé, gâté, parce qu'il y a énormément de choses qui sont présentées. Certains sont un petit peu agacés, parce que on a parfois un petit peu plus affaire à du marketing qu'à des vraies innovations. Il faut savoir que c'est un salon qui est extrêmement important pour toute l'industrie et beaucoup pour les professionnels, pour les grandes chaînes de magasins. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas toujours les choses les plus étonnantes qu'on puisse imaginer, mais il y avait quand même des choses à ce salon qui valent le coup d'être mentionnées. Et je sens déjà Cédric qui n'en peut plus, qui veut déjà commencer à parler. Je vais donc vous parler très vite des trois petites choses, des trois petites catégories dont on va vous parler aujourd'hui, et puis je vais me retourner vers mes invités. Alors, la première, c'est les tendances du salon, donc les grandes tendances, les choses dont on entend parler dans les 20 heures, on va dire. La deuxième catégorie qu'on va détailler, c'est l'Internet of Things, l'Internet des objets, et le Wearable Computing, le wearable computing, comment ça se traduit? Les ordinateurs qu'on porte sur soi et qui peuvent quantifier vos propres données. Ce sont deux grandes tendances aussi qu'on a beaucoup vues au CES et dont on entend beaucoup parler depuis l'année 2013, on dira. Et enfin, tout un tas de nouveaux matériels et de nouveaux services. Parfois vraiment intéressants qui ont été annoncés. Il y a Intel qui a fait des annonces, Nvidia qui a fait des annonces, enfin plein de gens comme ça, Sony, etc. On vous en parlera dans la troisième partie réservée au CES. Mais donc, je me retourne vers mes deux invités, à savoir le trop rare Yann. Comment vas-tu, Yann ?
Écoute, ça va très très bien, je suis vraiment très content d'être là, comme chaque fois d'ailleurs, et de vous retrouver tous les deux. J'ai la voix un petit peu prise, comme vous avez pu le voir aux informations, il a fait un petit peu froid ces derniers temps au Canada.
Mais on disait avant l'émission, tu as été pris dans le Polar Nexus.
Voilà, c'est un petit peu ça, ouais. Il faisait extrêmement froid, mais je me remets petit à petit, et puis je suis sûr que vous allez me tenir chaud avec tout ça.
Bon, on va tenir chaud à Yann, ça va être notre but. Et donc, je disais le trop rare Yann, qui nous a fait l'amitié de venir, et l'omniprésent Cédric, puisqu'il était déjà là à l'épisode précédent. Écoute, de suite.
Hein, ah oui, c'est vrai, j'étais là pour celui sur le crowdfunding.
Exactement. Sauf que on l'avait enregistré un petit peu avant, donc
oui, c'est vrai.
dans la timeline de la réalité, en fait, on n'était pas c'est pas les deux à la suite, mais dans la timeline alternative de la diffusion.
Eh oui, c'est ça. La timeline de iTunes.
C'est ça. On enchaîne les Cédric.
OK.
Mais c'est avec plaisir puisque tu es un expert avéré de tout ce qui est mobilité et internet, enfin maison connectée, wearable computing, comme on dit en France. Tu es un adepte de Tapable, etc.
Oh oui, de plein de choses.
Donc je suis sûr que tu auras des avis tout à fait pertinents à partager avec nous. Donc comme vous le savez, le but, la mission du Rendez-vous Tech, c'est de vous informer, d'aller détailler détailler toutes les centaines d'articles qui ont été publiés en anglais, en français, partout, et de vous en ressortir uniquement les choses intéressantes, et évidemment de faire ça toujours en vous amusant et en vous distrayant un petit peu. Donc on va essayer de s'y atteler. Comme je le disais, la première chose, la première grande catégorie de ce CES, dans la division totalement arbitraire que j'ai fait, c'est les grandes tendances à retenir. Et moi, je me fais rire moi-même, hein, c'est un petit peu dramatique, mais je les ai appelées les tendances prout-prout. Ah. je sais pas si ça vous évoque le même genre d'image que moi, mais pour moi c'est tout à fait approprié.
Alors pour moi il y en a deux effectivement qui sont dans cette catégorie, mais une que j'aurais pas mise là, tu vois.
D'accord. Bah écoute, commençons par. En fait, il y en a deux qui sont pour moi des grandes tendances prout-prout, les choses dont tout le monde a parlé et dont on a beaucoup entendu parler. C'est d'une part les voitures connectées et d'autre part les télés à écran incurvé. Et enfin, j'ai mis en bonus, parce que pour moi, c'est pas tellement prout-prout, c'est les télés 4K, et en tout cas l'écosystème 4K. Commençons par les voitures connectées. C'est en gros l'arrivée d'Android de manière un petit peu plus omniprésente et indépendante dans les voitures. Un système embarqué sous Android. Pourquoi pas, évidemment, séparé du système qui contrôle les mécaniques de la voiture elle-même, hein, pour pas être
pas forcément,
susceptible d'être hacké. Bon, alors justement, Cédric, ça, est-ce que ça fait partie des catégories prout-prout, ou c'est un truc qui t'enthousiasme?
Non, ben moi je l'aurais pas mis dans prout-prout parce que justement c'est un truc auquel c'est ma prochaine étape, parce que maintenant ma maison est connectée, tous mes objets autour de moi le sont, et il n'y reste que ma voiture. Et c'est vraiment l'étape que c'est pour moi attends. 2014, l'objectif c'est d'arriver à connecter enfin ma voiture.
Mais alors qu'est-ce que ça va t'apporter d'avoir Android ta voiture pas qui tourne sous Android. Android.
Alors bon, Android
oui, sous un autre système.
Non, en fait voilà, ce qui a fait que là on en parle, c'est que des grosses sociétés s'y intéressent enfin, mais réellement depuis 2012. Il existe des petits boîtiers que tu trouves Wi-Fi et Bluetooth que tu branches sur le port ODB2 de ta voiture et qui te permettent d'avoir des informations hyper intéressantes. Quand par exemple tu sais, t'as un voyant moteur qui s'affiche sur ta voiture ou avec un code erreur que tu ne comprends pas parce que tu n'es pas technicien, ben là ton téléphone Android t'indique clairement ce qui va pas, quoi. Genre une bougie d'allumage qui est naze ou ce genre de choses.
J'imagine que c'est pas que ces trucs-là.
Non,
il y a
mais
quand
en fait,
même des
c'est,
apps.
La prise diagnostique,
En gros, ce qu'on veut savoir, enfin, moi, non, parce que je suis pas tellement adepte de ce genre de trucs, c'est est-ce qu'on va pouvoir installer Coyote directement sur sa voiture?
Non, alors c'est pas
l'application e-Coyote.
Oui, on pourrait, mais c'est même pas ça, en fait, l'intérêt, parce que l'intérêt des voitures connectées, c'est pas Coyote et c'est pas ce genre de truc. L'intérêt des voitures connectées, c'est plutôt optimiser ta consommation d'essence, par exemple, ce genre de choses. Moi, ce qui m'intéresse vachement avec ces applications-là, et il y en a une que j'ai testée en particulier, pendant que tu conduis, il affiche effectivement tout un tas ton régime moteur exactement, ce genre de choses. Et par exemple, j'avais une application qui me disait quand est-ce qu'il fallait que je passe mes rapports de façon optimale,
ouais.
De façon à consommer moins. Et ça marche. Et ça marche parce que j'ai fait l'essai sans et avec. Enfin, j'ai fait 100, tu vois, genre en me disant, mais voilà, là, je pense que je consomme le moins. Et en gros, avec un plein, j'ai réussi à faire 1000 km. J'ai utilisé une application qui me disait, ben voilà, il faut passer les rapports maintenant, et ainsi de suite. Et ben, j'ai fait 1200 km. J'ai gagné quand même 200 km avec un plein.
D'accord.
Ce qui est pas négligeable.
Donc, en fait, pour toi, les applications, enfin, les voitures connectées, c'est pas juste pour
c'est
avoir la télé dans ton
Coyote. Ouais, non, ça a aucun intérêt.
Ça sera possible aussi, hein.
Non, mais
si
tu vois.
Android,
pas... Mon gros défaut, c'est que souvent je sors de ma voiture et j'oublie de la fermer. Parce que je descends mon fils de la voiture, je prends les bagages, machin, et j'oublie de la fermer. Alors là, je m'étais activé un truc sur la voiture, grâce à ça, qui verrouillait la voiture, quoi qu'il arrive, au bout de 30 secondes, s'il ne se passait rien dans la voiture ou si les portes étaient fermées. Donc c'était très pratique, sauf que un jour, j'ai ouvert ma voiture, j'ai posé des choses dans le coffre et tout ça, j'ai posé les clés
tes
sur
clés
le...
à l'intérieur. Ouais,
voilà, d'accord. J'ai fermé, et la voiture s'est fermée.
Là, tu peux pas lui faire « Ok, Google, ouvre ma voiture », non ?
Non, mais j'étais chez moi, et donc j'ai pu monter, prendre les doubles et ouvrir, mais tu vois le truc tout con. Donc,
ce que tu es en train de dire.
mais du coup, je me suis dit « Non, justement, il faut pas ça, il faudrait que, par exemple, avec ma montre Pebble, je puisse ouvrir ma voiture.
Oula, d'accord. Si j'ai laissé les clés dedans. Donc Cédric, il est déjà dans le CES de 2015.
Non, faux, ça se fait déjà.
D'accord.
Ça se fait déjà.
Ok, bon.
Ce que je veux dire, c'est que pour moi, les voitures connectées, c'est pas une tendance prout-prout. Ça peut aider pour plein de choses. T'as par exemple un pneu qui se dégonfle, ta voiture peut te le signaler que le pneu est en train de se dégonfler. Bon, si t'as crevé, tu le sens tout de suite, mais tu
vois. Mais est-ce que l'intérêt de faire arriver des vrais OS comme Android dans les voitures,
c'est pas justement
de développer un écosystème d'apps qui vont permettre de donner la puissance d'Android aux développeurs pour qu'ils créent des applications intéressantes?
Non, ils l'ont déjà parce que ton smartphone est capable déjà de se connecter à ta voiture avec un petit appareil qui vaut 50€. C'est pas ça en fait l'intérêt. Je pense que l'intérêt c'est plutôt justement de le rendre accessible à Madame Michu, quoi. C'est que moi, tu vois, là, je bidouille mon truc, je branche un truc sur le port, sur un port de ma voiture qui est pas forcément le truc le plus accessible du monde. J'ai une interface sur mon smartphone qui m'affiche des infos en temps réel sur ma voiture, les pannes éventuelles.
Donc ça le rendra accessible à un peu tout le monde.
L'avantage, c'est que t'as ton écran et tu le fais, quoi. Voilà.
Ouais. Tu voulais dire quelque chose?
Ben, curieusement, je me rapproche plus de ce que tu disais, Patrick, mais je pense que ça dépend vraiment de l'utilisateur. Moi, je connais rien à la mécanique, c'est vraiment quelque chose qui me dépasse. Tout ce que je veux, c'est que quand il y a un problème, que la voiture me le dise, quoi.
Ouais.
Par contre, je pense que une des choses qu'ils ont souligné pendant le CES, c'est que les constructeurs se sont pour une fois mis d'accord sur le fait que d'un point de vue interface utilisateur, il faut qu'on se mette d'accord, quoi. Il faut qu'on ait quelque chose d'unique.
Il faut qu'il y ait une uniformité.
Ouais, voilà. Et le fait de tout se baser sur un système d'exploitation, que ce soit Android ou autre, je pense que c'est vraiment quelque chose d'agréable. Et puis, du coup, comme on est sur Android, ben, on a accès à tout l'écosystème, etc., les applications.
Ouais,
moi, il y a plein de choses. J'ai absolument horreur des fils qui pendent de ma voiture. Et aujourd'hui, j'en ai plein. Parce que j'ai pas de GPS intégré à ma voiture. Donc, j'ai mon téléphone qui est juste à côté. Et puis, faut que je pense à synchroniser mes podcasts avant de partir en voiture. Et puis, j'ai pas de GPS. Et puis, les GPS qu'il y a sur les voitures.
Toi, tu vois vraiment un intérêt à l'écosystème des apps, comme on peut l'avoir.
Ouais.
Donc, en gros, soyez prêts à payer un abonnement 4G de plus pour votre voiture, quoi.
On peut partager la
connexion du téléphone, mais c'est pas
Des choses comme ça. Mais c'est surtout pour améliorer ton quotidien. Là. Tu sais, cette philosophie de vouloir avoir tous tes médias et tout ton côté connecté, finalement, tes tweets, ton Facebook, c'est quelque chose dont on parle beaucoup là. Quand tu commences à consommer quelque chose ou à effectuer une application, à tourner une application sur un device, et puis tu changes d'environnement là, tu passes de ta chambre à ton salon, à ta voiture, à ton boulot, que tu aies une transition finalement qui soit pratiquement.
Et donc là, même dans la voiture.
Et voilà.
Okay. Très bien, et la voiture connectée n'est pas forcément prout-prout. Je vais peut-être arrêter de dire prout-prout quand même. mais est-ce que les télés à écran incurvé, c'est bon, d'accord. Là au moins on se retrouve. Les télés à écran incurvé, c'est
même
donc
Michael
des télés qui
Bay
sont...
y croyait pas, tu
vois. Oh là là. Alors, commençons par la description, c'est simplement des écrans qui sont légèrement bombés, légèrement concaves de manière à ce que...
Ou convexe, il y a eu les deux. Hein.
Bon, convexe, je suis encore moins certain de l'intérêt.
C'est mode des années 80, tu sais, pour les nostalgiques.
Exactement. Et donc, en gros, selon les retours de tous ceux qui les ont vus, c'est assez intéressant quand on est pile au milieu à la bonne distance parce que on est un petit peu plus immergé dans l'image, mais par contre dès qu'on bouge un petit peu et on voit moins bien certaines parties.
Dès que t'es dans ton salon qui est pas du tout étalonné comme comme au CES, et ça marche plus, quoi.
Bon, donc là on va peut-être pas passer 2 heures sur...
Non, il y a noté un truc dans le useless, on peut aller un peu plus loin. Je crois que c'est LG qui a montré l'écran incurvable, c'est-à-dire que tu peux régler le degré de courbure de ton écran, en fait, directement dans le menu. Il y a des petits bras là qui tordent l'écran.
On va dire qu'on n'a pas été hyper enthousiasmé par cette
Michael Bay non plus.
Alors justement, Michael Bay, cette présentation invraisemblable,
ça c'est clair.
Pour ceux qui l'ont pas vu, tu l'as vu, Yann? Non. Ok. Alors attends.
Dis-moi en fait, plus.
Bon, il faut aller voir. Il faut aller voir la vidéo. Vous recherchez Michael Bay CES Samsung et vous trouverez la vidéo. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est monté sur scène. Il était censé dire quelques mots sur l'écran incurvé de Samsung.
Trop bien. Ça change l'expérience du film.
Voilà. C'est trop magnifique. Et
je sens le fait.
Sauf que il arrive et en fait, il a sauté la première, les quelques premières phrases que devait faire le vice-président qui était sur scène avec lui,
sur le prompteur
de Samsung. Et du coup, le mec qui contrôlait le prompteur a essayé de retrouver la suite, sauf qu'il s'y est pas retrouvé. Et Michael Bay regarde le prompteur, il se dit oh merde, attends, c'est pas ça que je dois dire. Il commence à dire ah merde, bon bah le prompteur marche pas bien, donc bon, on va y aller à l'arrache. Ouais,
et
okay,
là, il y a le mec de Samsung qui prend la parole quand même. Il dit bah vous pouvez nous dire peut-être ce que vous pensez, ce que ça apporte au film de regarder sur des écrans incurvés.
D'où vient votre créativité?
Ouais,
en fait,
ouais,
et là, il essaye. Alors, là, tu vois qu'il se liquéfie. Il essaye de répondre un petit peu. Et au milieu de sa phrase, il se retourne. Il dit « Je suis désolé ». Et il se barre, le mec.
Et il part.
Alors, et il part. Voilà. Il part de la scène. Alors, il faut savoir que c'est quand même des shows qui sont qui coûtent excessivement cher à produire, qui sont auxquels des centaines de journalistes assistent, qui sont streamés, évidemment. Enfin, c'est... là, le pauvre vice-président qui se retrouve tout seul sur scène, qui dit « Ok, bon ben, on va applaudir Michael Bay, c'est... Oh, c'était... »
C'est pas facile, voilà.
Bon, pour sa défense, il faut avouer que... Enfin, je peux même pas imaginer le stress que ça doit être de rentrer sur scène pour un truc comme ça. Et en plus, quand tu commences à perdre tes lignes, ça doit être vraiment, vraiment pas facile.
Ouais, non,
mais bon, son intervention, c'est bizarre, parce que ça a des répétitions quand même. Enfin,
ouais, bien sûr.
Non, mais son intervention, elle devait pas durer trois plombes, parce que la conférence était assez longue.
3 minutes.
Et franchement, t'improvises 2 secondes, quoi. Ouais, un écran incurvé, t'as pas 1 milliard de choses à dire dessus. Remarque, c'est peut-être ça le problème. 110, tu sais pas quoi
les
dire.
Les courbes de cet écran me rappellent celles de Megan Fox.
Ouais, c'est surtout qu'il a viré, donc je suis pas sûr qu'il dise ça, mais... Bon. Mais bon, ouais, enfin, franchement, c'était. J'avais
Allez
mal pour lui,
vidéo,
mais en même
c'est...
temps, c'est ridicule, quoi. Pour un mec de
c'est
ridicule.
Bon, il s'est excusé après sur le
oui,
web.
Sur son blog, ouais, j'ai vu.
Qu'elle était magnifique. L'écran incurvé était sublime et tout. Bon, bref, voilà. Pour les écrans incurvés, c'était un peu un double fail. Pour l'écosystème 4K, en fait, j'ai l'impression, alors vous allez me dire si je me fais des idées ou pas, mais j'ai l'impression que les choses sont en train de bouger plus vite qu'on aurait pu le croire. C'est-à-dire
plus que pour la 3D.
Ah bah ça c'est pas dur. Non mais surtout que la 3D, en fait maintenant c'est elle est enterrée, morte et enterrée. On passe à autre chose. Et l'autre chose, c'est la 4K pour parce que les constructeurs veulent nous vendre des nouvelles télés forcément. Et en fait, il y a plusieurs constructeurs qui ont annoncé des télés 4K à moins de 1 000 $. Évidemment, certains sont des constructeurs pas très connus, d'autres sont des constructeurs, on va dire, de deuxième catégorie. Mais tout de même, hein, y en a qui sont assez fiables. Et certains annoncent aussi le contenu en 4K. On pense notamment à YouTube et à Netflix. Alors, ça ne veut pas dire que demain, vous pouvez acheter une télé 4K et vous pourrez la voir bon marché et qu'il y aura du contenu. Hein, on n'y est pas encore. Mais par contre, j'ai l'impression que ça arrive plus vite qu'on aurait pu le penser.
Bah, je pense qu'il y a déjà, en termes de budget pour eux, mis à part en bande passante pour Netflix, tu vois, et pour YouTube, je ne sais pas exactement ce que ça représente. Mais aujourd'hui, tout est filmé de toute façon en
4K
ou 8K. Donc réellement, ça fait même presque une étape de compression en moins, tu vois.
Ouais.
Donc,
ils seront obligés de proposer la HD jusqu'à pendant très longtemps encore, hein, bien sûr.
Oui, mais bien sûr, mais la HD, ça sera le nouveau SD, quoi. Mais si tu veux, voilà, je pense que de toute façon, avec les débits, les connexions, faut pas se leurrer. Hein, tout le monde ne pourra pas bénéficier du 4K quoi qu'il arrive. Ça deviendra intéressant quand on aura un support physique qui supportera ce type de film.
Ah bah le Blu-ray peut faire du 4K.
Oui, mais alors là aussi, tu vois, il y a des films un peu longs.
Oui, qui risque de sentir à l'étroit
sur 50 gigas, je pense que ça va être un peu compliqué. Donc j'attends de voir et puis surtout tant que t'as pas un lecteur 4K vraiment établi, enfin je sais pas. Pour moi,
toi c'est pas. Non, mais je dis pas que c'est pour tout de suite. Je dis juste que
les choses vont vite parce que de toute façon c'est un peu la crise aussi pour eux. Ils vendent pas grand chose, donc il faut bien. Si tu veux relancer le marché, il faut bien qu'il y ait une innovation quelque part.
C'est ça, oui. Donc bon,
il faut bien que le contenu aille avec, sinon personne ne les achèterait.
Donc pas, t'as pas l'air hyper enthousiasmé par le 4K. Yann, toi, ça te parle un petit peu plus ?
Non, pas tant que ça. J'ai été dans un magasin où il y avait une télévision en 4K et je te jure que j'ai pas vu la différence en fait. J'étais là, je dis ok, bon,
ça, bah, c'était, ça a l'air joli. C'est ton grand âge, ça, Yann.
Ça doit être ça. Mais tu sais, j'avais pas le comparatif 4K 1080p à côté, donc bon, j'ai vu une jolie image, mais pas plus que ça pour pouvoir. Non seulement il faut le budget, quoi, et puis même si ça descend, mais aussi il faut le contenu. Tu disais que la majorité du contenu aujourd'hui était filmé en 4K. C'est pas tout à fait vrai. Enfin, aujourd'hui, les programmes télévisés, en tout cas qu'on a au Canada...
Filmé en 4K, mais...
Films, mais alors là, c'est pour les cinéphiles, mais pour Madame Michu qui regarde Le Juste Prix et compagnie, là, la 4K...
J'avais une conversation avec des amis qui me disaient, oui, regarde le passage à la HD, ça a été compliqué quand même. Moi, je pense que les choses sont un petit peu différentes aujourd'hui parce qu'il y a énormément de contenu qui arrive par le web. Il y a énormément de moyens de diffusion et de moyens pour accéder à ces nouvelles qualités de contenu. Contrairement au moment où on a fait la transition SD-HD, où bah, il fallait que la télé ou le câble le fasse, sinon ça servait quasiment à rien, quoi. D'un autre côté, c'est vrai ce que tu dis, Yann. Moi aussi, j'ai vu une télé 4K en démo. C'était chez Darty, je crois. Il y a plusieurs mois de ça. Et bon, j'ai pas vraiment vu une grosse différence. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, à moins que tu sois vraiment à telle distance de ton écran, tu vas rien voir. Ou à moins qu'il fasse telle taille, qu'il soit énorme, tu vas rien voir. Donc bon. Et puis il y a aussi des gens à l'inverse qui disent bah de toute façon le 4K c'est une étape, ça va être comme le 720p et il faut attendre le 8K qui risque d'arriver assez vite aussi. Donc
oui, voilà. Donc bon. Non, c'est bien, je pense qu'on va y arriver à un moment, mais disons que je vais pas me bousculer autant que quand j'ai vu la première fois que j'ai vu une télé en 1080p, je me dis il me fout ce truc absolument, quoi, ça sautait aux yeux, quoi. Alors que là, bon, ben quand ma télé va griller et qu'on aura une à 1000$, bon, ben je vais peut-être m'acheter une 4K, mais ça, je vais pas y aller de l'avant, quoi.
Oui, on parlait du Nexus Polaire tout à l'heure. On n'a pas précisé que tu vis au Canada, Yann. Donc, certains n'ont peut-être pas compris. Ils ont pensé que le Nexus Polaire était passé quelque part en France.
Mais pareil, ils se sont dit, ah, mais en fait, Netflix est déjà là.
Bah oui, je suis au Canada.
Oui, donc. Non, c'est les privilégiés qui ont Netflix. bon, passons à des choses un petit peu plus tech, un petit peu plus geek et un petit peu plus intéressantes, on va dire, avec l'Internet des objets et les ordinateurs ou l'informatique portable, dans le sens wearable computing. Alors, on va chacun peut-être choisir un sujet, un des trucs détaillés. C'est bon, pas un seul, mais je veux dire chacun son tour. Moi, je vais vous parler pour commencer du produit Edison de Intel, qui est en fait un PC complet de la taille, complet. Il n'y a pas le clavier et l'écran, bien sûr, hein, mais c'est le cœur du PC complet dans la taille d'une carte SD. Ça sera disponible mi-2014. C'est un PC dual-core, un vrai, avec de la RAM, le processeur, la partie graphique, etc. Il a une déconnexion Wi-Fi et Bluetooth. Et évidemment, ça va pas être très utile pour le commun des mortels, mais ça va servir aux constructeurs et aux partenaires pour fabriquer de plus en plus d'objets connectés. Donc là, on a un vrai PC complet sous Linux dans une carte SD. On arrive à des niveaux de miniaturisation qui sont vraiment intéressants, quoi.
Moi, mais la NSA avait déjà ça, donc.
Ah, mais bien sûr. Mais là, ça
même
sera
plus
disponible
petit
pour
encore,
le public.
Dans une
pour
carte
le
micro SD.
Mais bon, moi, c'est le genre de truc qui me fait, qui m'intéresse, quoi, on va dire, ce genre de choses.
Ouais, mais c'est pas la peine de changer pour un PC comme ça, tu feras pas tourner des jeux dessus, hein.
C'est pas possible, c'est sûr. C'est pour une petite montre ou pour un petit truc qui est dans un jouet ou ce genre de choses, quoi. Yann, est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué spécifiquement?
Moi j'aime bien, on en parlait tout à l'heure là, le côté automobile qui se mettent tous d'accord. J'ai vu des vidéos d'Audi qui parlaient carrément de
On a fini les automobiles, Yann. Là on parle de l'internet des objets et du wearable computing.
Ok, d'accord. Très bien.
Bah tiens, pendant mais, que écoute, tu cherches écoute, ton sujet.
Non, mais j'en ai un là. Je voulais juste revenir là-dessus, mais c'est pas grave.
Ah non, mais vas-y, pardon.
Tu m'as fait frustré. Très très mal. tu m'as fait bobo, comme dirait Nicky Larson. non, mais j'ai vu quelque chose qui m'a fait sourire quand même. C'était les wearables pour les bébés en fait.
Ouais.
Tu pouvais
c'est
acheter
des layettes, non?
Comment?
C'est des layettes pour des layettes
ouais,
connectées.
Enfin, c'est une sorte de doudoune là que tu mets, enfin un truc que tu mets autour de la taille du bébé là, qui va t'envoyer toi en tant que parent que bah qu'il faut le changer ou qu'il est en train de pleurer, sa pulsion cardiaque ou des trucs comme ça. Donc en fait, tu es en train de l'inonder d'ondes radio, il va avoir un cancer à 3 ans, tu sais. Mais bon, voilà quoi. Tout ça pour dire que globalement, moi, sur l'Internet of Things, c'était un peu tout et n'importe quoi, mais il y a rien qui m'a vraiment convaincu.
C'est vrai, mais vous pensez pas que c'est intéressant ce truc pour les. Moi, j'ai pas de bébé. Hein. Vous avez des enfants,
non,
donc.
Non. Enfin, faut arrêter d'abuser. Mais il y a franchement, autant j'ai vu des choses très intelligentes sur le wearable computing, autant j'ai vu des choses mais complètement idiotes, quoi.
Tu veux dire que la brosse à dents connectée, ça t'a pas plu?
Non, mais pour moi, c'est idiot. Enfin, je ne comprends même pas l'intérêt.
Bah, la brosse à dents connectée, tu peux savoir si tes enfants se brossent les dents, et puis il y a une sorte de gamification du truc, il faut se brosser les dents suffisamment longtemps pour gagner des points, tu peux regarder si en moyenne ils se brossent bien les dents tous les jours, non? Ça vous dit rien?
Écoute, il y a Mother de Sense qui fait la même chose avec ta brosse à dents, mais aussi avec ta bouteille d'eau, avec tout en fait, et je trouve ce projet-là beaucoup plus intéressant que juste une brosse à dents connectée qui coûte
avec
les yeux de la tête.
Avec ta bouteille d'eau? Ouais, alors explique-nous Mother parce que c'est un petit peu
parce que pour moi dans le wearable computing, ben justement j'en ai un qui est entre le wearable computing et l'Internet of Things, c'est Mother de Sense. Je vais recevoir la mienne d'ailleurs fin février ou début mars parce que je l'ai carrément acheté hein. Mais je l'avais vu avant le CES, ils ont gagné un prix au CES. C'est Raphaël Adjian qui avait fait Nabastag et tout ça qui est à l'origine de Mother. Mother c'est une espèce de base que vous installez chez vous qui peut supporter jusqu'à 24 petits objets connectés dessus. Qu'ils ont appelé des cookies, et c'est des tout petits capteurs blancs avec une petite couleur en bas, et qui fonctionnent à pile et qui ont en gros une année d'autonomie pour ceux qui bougent pas souvent, et un peu plus d'un mois, et vous changez juste la pile de temps en temps. L'idée en fait de Mother, c'est que ces petits capteurs, bah, par exemple, vous en glissez un dans le sac de votre gamin, et Mother est capable de savoir bah, quand il est parti de la maison, quand il est rentré, et ainsi de suite, tu vois. Tu peux le glisser dans ta poche et il compte tes pas. Et du coup, ça devient ton podomètre perso, ton espèce de Fitbit personnel. Mm-hmm. Accessoirement, ils prennent tout le temps la température. Donc, même quand tu es chez toi, tu peux en mettre un dans chaque pièce si t'as la température de toutes tes pièces. Tu peux le mettre sur la porte de ton frigo. Tu sais quand le frigo a été ouvert, par exemple. Ou sur n'importe quelle porte.
C'est tu bien, peux ça pour traquer les gens qui sont en régime.
Mais voilà. c'est une sorte de NSA personnalisé pour la maison, quoi.
C'est ça, exactement. C'est même une PSA, exactement, Personal Security Agency. D'accord. Et donc, tu peux même le mettre sur les brosses à dents. Il y a un petit truc qui est prévu pour. Ou en gros, chacun a son cookie à la maison. Et tu peux le mettre sur ta brosse à dents. Donc, te brosser les dents. Et t'as justement la gamification avec la brosse à dents. C'est prévu dedans. Et tu peux le glisser sous ton matelas et tu sais, ça traque aussi si tu dors bien ou pas. La nuit, si t'as bougé, ce genre de truc. Bon.
Donc c'est encore mieux que le WeThings Aura qui a un petit truc que tu mets sous ton matelas et qui va te réveiller avec la lumière.
Alors là, ça te réveille pas. Mais là où c'est assez malin, c'est que Raphaël Adjian, c'est quelqu'un d'assez intelligent pour ça. C'est que justement, les développeurs vont pouvoir s'amuser et créer des scénarios et en fait, c'est ce qui est top avec Mother, c'est comme elle mesure absolument tout. T'as une espèce de big data personnel. Et du coup, elle, par exemple, si t'en mets un sur ta machine expresso, elle sait combien tu bois d'expresso par jour. Et elle peut te dire, ben voilà, vous avez mal dormi. C'est en relation avec le fait que vous avez bu, ben, je sais pas moi, 5 expresso et que le dernier était à 16 heures, par exemple. Tu vois, ça peut aller super loin. Ça peut voir si tu bois souvent de l'eau ou pas, si t'en places un sur ta bouteille d'eau, tu vois, par exemple. Enfin, si tu veux, ça peut aller très très loin en termes de croisée d'informations. Et typiquement, si tu as une installation domotique chez toi, ben ta box domotique peut très bien lire les informations de ton sommeil et dire ben tiens, c'est à ce moment-là, un petit programme peut très bien dire ben c'est à ce moment-là qu'il faut que je le réveille, et du coup là ben il déclenche l'allumage de progressif de la lumière chez toi par exemple.
Mmh. Mais bon, disons que là c'est pas intégré dans le système directement,
mais
tu
là où
peux
c'est intéressant,
mais oui, déjà voilà, ça fait énormément de choses.
Voilà. Et mais là où c'est intéressant, c'est que comme c'est ouvert et pas propriétaire, tu vois, comme WeThings et tout ça, c'est que là tu es sur un système qui va pouvoir interagir avec plein d'autres systèmes. Et c'est si tu veux, moi ce qui m'ennuie le plus dans tout ce que j'ai vu, parce que si je dois dire un truc négatif, c'est celui-ci. Quand je vois, tu vois, les trucs de chez LG qui sont top, hein, qui mesurent les battements de ton cœur, ou quand je vois chez Netatmo par exemple le truc qui mesure l'exposition au soleil, enfin, il y a tout un tas de choses. Le seul problème avec tout ça, c'est que
le bijou là qui mesure l'exposition au soleil.
Ouais, enfin ça c'est anecdotique, mais mais si tu veux, il y a aucun standard pour tout ça. Et ces objets-là communiquent pas entre eux. Et justement, le fameux big data, le truc qui serait intéressant finalement, c'est que ces données puissent, que tu puisses les exploiter pour faire des choses, pour programmer des choses, pour je sais pas moi, elle peut te dire bah tiens, on a vu que vous avez mal dormi, l'histoire du café, tu vois.
Ouais.
Ce genre de choses là n'est possible uniquement si les systèmes sont capables de communiquer entre eux, s'il y a des API
bien
ouverts
sûr,
et s'il y a un logiciel qui est capable de lire tout ça. Et là,
bon,
je...
écoute, tu m'as quand même un petit peu convaincu là, j'avoue. Moi, j'avais vu bien sûr le Mother de Sense. J'avais pas été, en fait, j'avais pas compris la portée du truc.
Ah,
moi, je suis un petit peu convaincu.
Aussi.
Yann, t'es aussi.
C'est juste pour les sociétés d'assurance là, ça m'inquiète un petit peu, tu sais, parce que à partir du moment où tu crées un standard pour que toutes les applications puissent s'y brancher et puis uploader et downloader du data là, bah t'es pas à l'abri d'un petit pop-up qui te dit est-ce que vous êtes OK pour.
Attention, Sense, ils l'ont bien précisé, c'est les données sont absolument pas sociales, et d'ailleurs leur objectif est de base, ils ne prévoient aucun partage sur Twitter, Facebook, ce genre de truc de tes activités, ça reste personnel en fait.
Oui.
Donc l'objectif c'est que ça reste personnel.
J'espère que ça leur restera alors à ce moment-là. Mais sur le concept, oui, de toute façon, t'as tout à gagner à croiser les informations. Hein, les informations qui restent chacune de leur côté.
Bah,
je peux
voilà,
pas vraiment faire d'analyse par rapport à ça. Donc effectivement, les croiser, c'est intéressant. Mais après que ce soit uploadé chez mon assurance, ça me plaît un petit peu moins. Quoi,
mais toi, typiquement, t'es plus chez toi parce que les cookies sont plus détectés. Bah, elle peut très bien envoyer l'ordre d'éteindre les lumières que t'as laissé allumer chez toi, tu vois. Enfin, c'est tout bête, mais.
Oui, il y a plein de scénarios possibles, oui, c'est vrai. Et puis là, ce qui a l'air vraiment intéressant, c'est d'avoir ce système qui semble entièrement, autonome, quoi.
C'est autonome. Voilà, t'as pas besoin d'y penser, hein.
Bon, rapidement sur les autres systèmes de ce type-là, LG qui est en train de développer avec des sociétés de messages, SMS assimilés, des moyens de contrôler vos appareils malins, vos appareils smart, avec des messages textes. Genre ta machine à laver te dit, t'envoie un SMS pour te dire c'est bon, j'ai fini le premier cycle, ou tu peux lui envoyer un SMS au four pour lui dire tu peux commencer à te préchauffer, j'arrive.
C'est bien, ils ont un an de retard sur des développeurs indépendants, c'est bien.
Oui, mais bon, tu sais bien que moi j'aime beaucoup les développeurs indépendants, mais tu sais bien qu'il faut aussi parfois que tu parlais de standards, que des gros s'intéressent à ce genre de choses pour que les standards puissent émerger et que ça arrive au grand public. Donc.
Et d'ailleurs, je salue Jean-Philippe Ancos qui écoute le rendez-vous tech.
Ah,
je suis sûr.
Sarah !
Et évidemment, parce que Sarah, typiquement, c'est la surcouche, c'est l'anneau pour les gouverner tous, tu vois.
Oui. Alors c'est toi qui m'avais fait découvrir ça, Cédric, et là, j'avais été émerveillé. Si vous ne connaissez pas Sarah de Jean-Philippe Ancos, JP Ancos, c'est un système, une sorte d'intelligence artificielle. En fait, un système qui connecte tous vos objets connectés entre eux-mêmes et qui vous permet de les gérer, qu'il est en train de développer depuis un certain temps, qui donne des résultats incroyables, quoi. Allez voir ça.
Oui, et d'ailleurs, il y a une appli Android maintenant. Vous pouvez enregistrer en fait un MP3, ça l'envoie directement chez vous et Sarah exécute l'ordre qu'elle a reconnu dans le message MP3. Donc, tu vois, taper du texte, pour moi, on est déjà. Enfin, c'est saut 2010, quoi, tu vois.
Donc, c'est sur le site web encause.net, encause.net. Et on salue JP au passage. D'autres choses intéressantes, Intel se met au smartwatch, au fitness tracking avec des écouteurs connectés, c'est-à-dire que vous avez une sorte de Fitbit dans les écouteurs, le Jarvis, le petit écouteur, vous savez le truc du Bluetooth, l'oreillette Bluetooth, ouais, du mec qui a connecté à son téléphone, le truc qui vous donne l'air d'un abruti total. Et ben là, ils en ont créé un qui ressemble un petit peu à ça, qui s'appelle Jarvis et qui vous écoute tout le temps et qui est une sorte de Siri, en fait, d'assistant personnel, qui est directement dans votre appareil. Tout ça va avec un bol dans lequel vous pouvez mettre tous ces appareils pour qu'ils se rechargent sans fil automatiquement. Donc, bon, Intel se met donc au connecté. On a Arcos qui se lance dans les objets connectés aussi, avec plus dans la... plus dans la maison connectée avec caméra de vidéosurveillance, détecteur de présence, prise intelligente, capteur météo. Ça te plaît pas, Cédric? Moi, je me suis dit, c'est pas ton truc.
Non, ça me plaît pas,
quoi.
Parce que, alors, justement, je me suis dit, waouh, génial. Puis quand j'ai regardé de plus près, j'ai vu que tout fonctionnait en Bluetooth. J'ai dit, ok, stop. Bon, même si du
parce
Bluetooth.
Parce que la portée est pas assez,
mais déjà,
grande.
Et puis, je veux dire, il y a tellement d'autres protocoles qui existent, et qui fonctionnent mille fois mieux. Je comprends pas ce choix, en fait. C'est encore une solution qui est fermée. Tu vois, typiquement, tu veux rajouter un capteur autre que ceux proposés, tu peux pas. Ouais. Alors qu'il y a des protocoles comme le Z-Wave et d'autres protocoles radio, avec plein de constructeurs qui travaillent dessus.
Bon, c'est le protocole fermé, voilà, qui te gêne.
C'est ça, mais voilà, mais ouais, c'est le problème. Quand vous achetez cette solution-là, vous êtes enfermé avec
celle-là. Oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, Arcos essaye de faire des choses différentes. C'est ça,
c'est
au moins un peu leur. D'ailleurs, ouais, entre parenthèses, vous avez entendu beaucoup de noms comme WeThings, Sense, Arcos. Il y en a d'autres, Netatmo, etc. Comment s'appelle la société qui fait Netatmo? C'est Netatmo, justement,
Netatmo,
le nom de la société. Ouais. Et ben, il se trouvait qu'il y avait quand même pas mal d'exposants français au CES. Ouais. 90 sur 3200, mais il y avait 20% des 200 startups qui étaient.
Et Netatmo, que j'adore,
françaises.
Vraiment, j'adore ce qu'ils font. D'ailleurs, ils sortent un pluviomètre pour les stations météo.
Bon, on revient sur la météo, oui.
Ouais. Mais non, parce que vraiment, leur station météo est top. Par contre, le June, là, leur bijou pour mesurer l'exposition au soleil, ça, c'est un truc que je comprends déjà même pas le positionnement marketing.
Ouais. En fait, c'est une sorte de petit bracelet, ouais, avec une sorte de ça un ressemble bijou, à de l'ambre ouais, sur le haut du bracelet, et ça mesure votre exposition au soleil. En gros, ça vous dit quand il faut que vous alliez à l'ombre parce que vous risquez le cancer de la peau.
C'est ça. Non mais l'idée est très bonne. Enfin, tu vois, en soi même, je dis pas que c'est d'utilité publique, mais presque. C'est-à-dire que quand t'as des enfants et que tu vas à la plage avec eux, c'est quand même assez cool que tu sois prévenu. Bon là maintenant, il doit plus du tout s'exposer de la journée, sinon il va dépasser son quota et c'est pas bien.
Oui. Mais enfin ça, à la limite, tu peux le. C'est...
Eh ben non.
Disons que c'est. Ouais. Bon. Peut-être. Ok.
Bah non. Donc du coup, je trouve le.
Mais donc c'est bien.
Le
alors.
Principe bon. Mais sauf qu'attends, ils en ont fait un bijou, donc déjà toi et moi on peut pas le porter. Non, mais ça veut... Et puis surtout, il y a une, enfin, je vais vous allez dire que je vois le mal partout, mais ça fait quand même super sexiste de dire on fait un bijou pour madame parce qu'elle va souvent s'exposer au soleil, quoi. Enfin, si je dois résumer l'objet, c'est un peu ça, quoi.
On peut dire ça comme ça, oui. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est très féminin comme bijou. Mais bon. Alors. Razer qui fait aussi un truc qui fait smartwatch plus fitness tracker plus sleep tracker plus location tracker plus des gestures configurables, genre tu secoues pour accrocher ton téléphone. C'est une sorte de smartwatch ultime qui fait tout, non? C'est bien,
ouais,
ça.
Ouais, alors en fait Fitbit
disponible
a annoncé...
fin du premier trimestre, ça.
Ouais, Fitbit a annoncé dans la foulée une mise à jour du Fitbit Force qui va afficher aussi le nom de l'appelant dessus.
Donc, oui, bon. mais
c'est très malin de faire ça. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un objet qui mesure combien de, enfin, si tu bouges tes fesses ou pas, et une montre, par exemple, connectée, bah, tu peux avoir un seul objet, et ça, c'est plutôt pas mal. Puis il est pas vilain, je trouve.
Ouais. L'approche de Sony est pas mal non plus. Ils ont fait là aussi une sorte de Fitbit, mais très très bon marché à moins de 100$. Enfin, bon, comme les autres Fitbit,
comme Fitbit quoi,
disponible au premier trimestre, qui sera par contre au cœur d'un écosystème un petit peu plus grand développé par Sony et qui permettra d'avoir encore des informations sur soi comme tous ces.
Ouais, et là ça fait très big data justement. C'est-à-dire que t'es à un concert, tu prends des photos. En fait, il écoute tout ton environnement et tout ton truc et il te fait un espèce de life blog. Où tu peux revivre tes moments, enfin, tu peux revivre des moments intenses et tout ça. C'est assez sympa, je trouve.
Bon, bah, je pense qu'on a un petit peu couvert tout l'aspect Internet of Things, wearable computing du CES, qui
ouais,
est là pour le coup.
Tellement de choses à dire.
Oui, bon, on pourrait en faire une émission complète, mais qui est pour le coup une tendance qui est crédible et intéressante, quoi. Tout ne prendra pas, bien sûr, mais non. Ouh, mon Dieu, j'oublie la chose essentielle qui a dû te donner des palpitations, c'est la Pebble Steel.
Eh ben non, j'ai même pas eu de palpitations parce qu'en fait, je la trouve pas très belle.
Ah, bon, c'est une montre, la montre Pebble, vous savez, qui est une smartwatch qui a levé énormément d'argent sur Kickstarter que Cédrica. Ils ont sorti en fait une version un petit peu plus haut de gamme à $250 qui est compatible avec l'ancienne version, mais qui est surtout avec une structure en métal et des bracelets métal et
ouais, et en fait, elle a le double de mémoire embarquée, ce qui fait que vous, au lieu d'installer 8 applications sur votre montre, vous pouvez en installer 16, quoi, voilà.
D'accord.
Mais ouais, à part en noir où ça passe, mais les autres, je la trouve pas si jolie que ça. Ouais,
d'accord. Bon, Yann, tu es resté très silencieux justement.
Non, mais je dois vraiment être un vieux con parce que. Non, mais sérieusement, je dis. Tu vois, dans l'absolu, je me dis, oh, c'est quand même cool de prendre soin de ton corps et d'avoir des trucs pour pouvoir traquer ton rythme cardiaque et des trucs comme ça, quoi. Mais mon côté vieux con, là, ça me dit que non, mais c'est vraiment trop dangereux, ça va finir par sur le serveur de la NSA et tout, alors que c'est déjà là, en fait. Et puis voilà, quoi. Mais sous la forme, ouais, moi, j'aime beaucoup le Razer qui.
Naboo, ouais.
Le Naboo, là, qui est assez. Discret, je trouve que en général les montres intelligentes là qui traquent tout plein de choses, déjà j'ai pas de montre, j'en porte pas, et je trouve ça
le Nike Fuel Band, tu peux pas dire que c'est pas possible, tu peux pas dire ça, et même le LG,
t'as compris,
annoncé,
hein, Yann, tu peux pas, hein.
Mais non, tu peux pas dire ça. Mais non, mais regarde les Nike Fuel Band, tu peux pas me dire que ça fait saut Nike, quoi, c'est pas vrai.
Non, mais j'exagère un petit peu, mais voilà, non,
non, mais je comprends ce que tu veux dire.
Goût,
je comprends ce que tu veux dire, c'est un petit peu. Moi, j'attends aussi parce que ça m'enthousiasme énormément, ce genre de truc, parce que le fait en dehors des problèmes de NSA et d'assurance qui va écouter qui va mettre des micros dans ta chambre, le fait de savoir, d'avoir toutes ces informations et toutes ces données, je suis convaincu que ça peut nous aider. Pour énormément de choses, j'en suis vraiment convaincu, mais j'ai toujours pas trouvé l'appareil qui va achever de me convaincre pour, par exemple, me mettre à reporter une montre ou pour porter mon... Et alors là, évidemment, le spectre d'Apple plane sur l'ensemble du CES parce que ils sont les spécialistes de cette opération qui consiste à prendre des tendances qui existent déjà et à sortir un produit qui finalement n'a pas énormément de choses fondamentalement nouvelles, mais qui les met en forme d'une manière un petit peu plus attractive. Alors, je parle d'Apple, mais on pourrait parler aussi de Google, bien sûr. Entre parenthèses,
ou
de Microsoft aussi. On nous signale. J'ai annoncé sur Twitter qu'on enregistrait bientôt. Maurice Mendy et Alex sur Twitter, Raganov, nous ont signalé que Google venait de racheter Nest. Nest, pour ceux qui ne le savent pas, c'est cette société qui a créé
un thermostat.
Voilà, un thermostat. J'allais le trouver. Tu m'as interrompu.
Ok.
Un thermostat, c'est des anciens d'Apple. D'ailleurs, le thermostat Nest, qui est super design et super pratique, c'est en fait l'un des premiers thermostats connectés qui a vraiment eu du succès. Donc,
oui, parce qu'en fait, il avait une fonction où il apprend les rythmes des utilisateurs quand tu montes et quand tu baisses, et du coup, il est capable d'anticiper tes demandes.
Voilà. Donc, bon, bref, on verra qui sortira vraiment le produit qui finira par convaincre ceux qui sont pas déjà un petit peu intéressé par la chose. Cédric est très enthousiaste quand on parle de maisons connectées et de wearable computing à la base. Nous, on est ouverts à la chose, je pense, mais peut-être
il manque pas grand chose, hein,
ouais. Pardon Yann, je t'interromps tout le temps.
Non, je disais juste qu'il manquait pas grand chose, je suis d'accord avec toi. C'est juste bon, un petit peu une intégration légèrement plus simple, ou c'est peut-être juste esthétique. Mais je pense qu'effectivement, peut-être une réponse d'Apple qui soit en produit, qui se font mieux avec mon mode de vie, peut-être que ça fera la différence. Mais
ouais.
Voilà.
Apple, et à vrai dire, Apple ou Google, hein, parce que si Google réussissait à sortir un truc comme ça...
Là, avec Nest et tout ça, enfin...
Bah, en fait, j'essaye de penser aux écosystèmes qu'on a déjà. Alors, moi, je suis en partie dans l'écosystème Apple avec mon iPhone, mon iPad. Je suis beaucoup dans l'écosystème Google avec tous les services Google que j'utilise. Et je me dis, si ces sociétés sortaient un appareil ou un service qui s'intègre à ce que j'utilise déjà et que j'ai déjà l'habitude d'utiliser, peut-être que le pas serait plus facile à franchir.
Mais là, tu vois, je te donne un exemple. Mercedes a annoncé un partenariat, je crois avec Nest d'ailleurs, où depuis ta voiture, tu peux allumer le chauffage quand, par exemple, tu rentres des vacances sans être chez toi. Vu que Google vient de les racheter avec toutes ces histoires d'Android dans la voiture et tout ça, oui, qui est géolocalisé en permanence, il peut savoir si t'es en train de revenir à la maison, donc ou si tu es proche ou pas, donc il pourrait ouvrir le portail chez toi, il pourrait allumer le chauffage.
Google, ils ont tellement de choses, ils ont savez qu'ils ont racheté Boston
Dynamics
qui fabriquait tous ces robots un petit peu bizarres, on en avait parlé. Donc oui, ils peuvent faire énormément de choses avec tout ça. Bon, bref, passons au dernier morceau du CES, qui est les annonces matérielles et services et tout ça, les choses un petit peu plus, encore un petit peu plus geek et informatique, et les choses qui nous plaisent. Je vais commencer avec un truc qui, là, pour le coup, m'enthousiasme énormément, c'est les imprimantes 3D avec MakerBot, l'un des fabricants les plus connus d'imprimantes 3D, qui a annoncé son réplicateur mini 3D, qui est un petit peu simplifié et surtout qui coûte à peu près 1000 euros. On est à $1,375 qui sera disponible au printemps. Et là, on commence à arriver à des prix et des simplicités d'utilisation. Alors, pour prendre un parallèle avec l'informatique, beaucoup de gens ont fait la comparaison avec l'arrivée de l'Apple. L'un des premiers ordinateurs vraiment intégrés, vraiment utilisables. Donc, on est très, très loin d'une démocratisation complète. Le premier Apple était une étape importante.
Je dis ça pour te charrier parce qu'il n'y a pas news Apple et tu arrives quand même à nous en parler. Donc c'est pour
Je suis sûr que certains me diront ça dans les commentaires.
T'es d'accord avec moi?
Oui, effectivement. Non, mais
je suis désolé, mais
écoute, c'est vraiment pour le coup ce modèle d'imprimante 3D est vraiment clé en main. Donc
bien sûr.
Bah oui, non. Et puis je veux dire, Google, Microsoft et Apple, c'est les trois géants. Donc je pense qu'il est difficile de faire un épisode sans en parler. Bref, le MakerBot réplicateur mini, $1,375. J'achète pas.
Bon, encore trop cher.
Ouais, encore un peu trop cher.
Il est sympa, mais un peu trop cher. Ouais. Moi, j'achète mon imprimante aujourd'hui à $200, donc j'attends encore.
Ouais. Moi, je crois qu'autour des 500 euros, je commencerai à me poser la question.
Et tu feras quoi avec, Patrick ?
Mais je sais pas, c'est juste l'envie de tester.
Qu'est-ce que tu veux faire d'autre ?
Mais tu sais, c'est juste un truc, une évolution tellement intéressante dans l'informatique qui est la digitalisation des objets physiques. Tu vois, le fait de pouvoir transmettre en quelque sorte des objets physiques.
La numérisation, tu veux dire.
Oui, c'est ce que je veux dire, exactement. Merci, Cédric. La numérisation des objets physiques, je sais pas, ça me fascine, moi, donc. Bon, bref, ça continue à évoluer.
Moi, Nvidia qui fais beaucoup de jeux de plateaux et de figurines, je vois un intérêt, mais...
Ouais.
Mais bon, et puis il faut faire attention à un truc, tiens, on le signale pas assez souvent, mais le plastique qui est fondu et dégage des émanations assez toxiques. Donc si vous avez une imprimante 3D, lisez bien la notice, il est écrit qu'il faut l'utiliser la fenêtre ouverte ou proche d'une source ventilée, faites-le, hein, parce que c'est vraiment, les vapeurs de ces produits-là sont vraiment dangereuses, quoi. Donc,
bon,
voilà.
Vous êtes prévenus.
Voilà, c'est un message d'information du gouvernement.
Nvidia a annoncé son Tegra K1, qui est le prochain processeur mobile, qui est visiblement, selon certaines estimations, plus puissant qu'une PlayStation 3 ou une Xbox 360 au niveau graphique. Plus puissant, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais en tout cas, on s'approche vraiment de ce genre de capacité. Mais c'est invraisemblable. C'est très cool, non ? Nos téléphones et nos...
Ça fait un moment déjà que les. Ça fait pas un moment, mais depuis quelques mois, je dirais qu'on flirte déjà pas mal avec ces. On flirte et on surpasse même sur du mobile les performances de la PS3 et de la 360. Encore heureux, hein. C'est des trucs comme ça qui ont 7-8 ans quand même d'âge. Donc je suis pas surpris. C'est super cool. Je suis vraiment très content.
Mais là où c'est étonnant, c'est plutôt que des trucs qui ont 7-8 ans. soient aujourd'hui considérées encore comme des références, tu vois. C'est plutôt ça qui est étonnant.
Je sais pas. Bon, c'est quand même sur le principe.
Mais regarde la PS, regarde ce que fait la PS Vita, par exemple. Graphiquement, enfin, tu peux pas dire que ça soit pas.
Ah, c'est pas incroyable, mais on n'est pas tout à fait au niveau d'une PS3.
Ouais, parce qu'après, t'as la définition de l'écran, il y a plein de choses, il y a consommation énergétique aussi qui fait que, t'es un peu bloqué par ça, quoi, mais.
Bah, je serais curieux de savoir combien de temps tu me fais tourner ton Tegra K1, là, sur
ça. Ah oui, ça, c'est une autre question, c'est sûr. Bon, en tout cas, ça arrive bientôt aussi. Intel fait quelque chose d'un petit peu bizarre et AMD fait un petit peu la même chose, mais pas tout à fait. En gros, Intel a confirmé qu'ils allaient construire ou en tout cas créer avec des partenaires des appareils qui tournent sous Windows et sous Android en même temps. En fait, c'est un dual boot. Vous avez d'un côté un système, et de l'autre, l'autre système, et vous choisissez lequel vous allez démarrer. Moi, j'ai jamais été convaincu par les systèmes dual boot. Jamais. Non. Il y a toujours des problèmes. Donc là, je suis pas convaincu non plus, quoi.
Non, mais par contre, là où j'ai vu un truc, moi, assez intelligent au CES, c'est les écrans qui intègrent Android. C'est-à-dire que sans allumer ton ordinateur, tu peux juste allumer le moniteur et avoir Android sur ton moniteur et, par exemple, consulter juste tes mails en tactile, comme ça. Et puis, si, par exemple, tu veux bosser, là, t'allumes ton ordi et t'as vraiment ton moniteur en tant que moniteur, quoi, tu vois. Bah, ça, à la limite, je trouve ça peut-être plus intelligent que d'avoir un ordinateur.
Tu vas le faire une fois dans l'année, quoi, ce truc-là. C'est vraiment. Je vois.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Je vois le truc, ça peut être intéressant, mais sous un cas pratique, mon PC, il est allumé 24 heures sur 24. Tu vois,
c'est vrai, oui. Bah, AMD fait peut-être une chose un petit peu plus intéressante. Ils ont une autre solution pour allier Android et Windows. D'ailleurs, entre parenthèses, Microsoft ne doit pas être très très content de ces deux de ces deux initiatives, mais eux, ils ont donc AMD a créé un processeur qui intègre à la fois l'architecture PC classique, donc x86, et de l'autre côté l'architecture ARM qui est utilisée par les appareils Android et d'ailleurs iOS aussi. Et donc, ils vont avoir la possibilité de lancer très facilement des applications Android sous Windows. C'est-à-dire qu'ils utilisent BlueStacks, qui est un émulateur d'Android, pour simplifier. Et ils vont pouvoir utiliser des applications Android sous Windows.
Ouais, là, sauf que là, il n'y a pas d'émulation, du coup.
Non, il y a pas. Non, ça. Processeur, voilà. Donc ça tourne vraiment très bien. T'es pas sûr que.
Je suis pas sûr que ça dérange forcément Microsoft dans le sens où je crois que Microsoft il touche des royalties sur chaque device Android qui sort. Donc pour le coup, potentiellement, ils vont également gagner des royalties là-dessus. Hein.
Oui, de là à vouloir que les applications Android se mettent à remplacer le Windows Store sur Windows, ça paraît être un grand écart, quoi.
Je parle juste de l'OS en fait.
Oui.
Ils ont des brevets dessus quoi. Donc je suis pas. C'est et puis sûr. De toute façon c'est encore un vecteur de diffusion quoi. Plus il y aura des machines sous Windows, même si tu fais tourner de l'Android dessus, c'est pas grave quoi. T'as quand même vendu une licence Windows donc.
C'est pas faux. Valve a annoncé ses 13, en tout cas les 13 Steam Machines de ses partenaires. Il y a notamment Alienware, Gigabit, et on retrouve Matériel.net, une petite société française encore, enfin petite, une société française qui va fabriquer.
Il est cher
Steam
d'ailleurs,
Leur. Bah, il y en a plein en fait. Oui,
c'est vraiment décevant.
Ah, t'es déçu toi Yann?
Ah ouais, extrêmement déçu. Enfin, quand Valve a annoncé leur truc de Steam Machine, là, je pensais vraiment que les constructeurs allaient faire un effort, ne serait-ce que sur la forme, parce que bon, voilà quoi, ils sont quand même en face de la PlayStation 4 et de la Xbox One, donc sur la forme, c'est immonde, et puis sur le prix,
c'est un peu plus proche des PC, quoi.
C'est un PC. C'est-à-dire que tu pourrais vraiment le monter. C'est le PC que tu aurais pu monter toi-même avec un petit logo Valve dessus. Il n'y a aucun effort qui a été fait sur la forme, aucun effort qui a été fait sur le prix. Donc du coup,
Je pense qu'on est au début.
On va fabriquer des autocollants pour coller sur les sur les PC. On va se faire.
Je pense qu'on est vraiment au début. Les gens annoncent les trucs et puis après peut-être qu'il y aura des catégories de machines Steam. Tu sais, genre catégorie. Enfin, je sais pas, 1, 2, 3 et plus ou moins puissante et que ça sera. Enfin, on n'est pas certains visiblement imaginer l'arrivée des PC dans le monde des consoles. Là, on est encore vraiment à mi-chemin. Et on est encore qu'au début, donc peut-être que ça continuera.
Surtout que c'est
début,
la course à l'armement, c'est-à-dire que t'as des machines qui vont jusqu'à 1000 et quelques euros, quoi.
Oui. J'ai vu des machines à plus de 2000 dollars.
Plus,
hein.
Ouais, mais là tu te dis, mais quel est l'intérêt? Enfin, dans ce cas-là, tu le vends
c'est
pas.
C'est pour sur... qui en fait? C'est qui la cible de
qui va acheter une machine
c'est la grande question,
de console ouais. de jeu à ce prix-là? Enfin, ça a juste pas de sens. Alors que tu te montes un PC dans un boîtier, bon, pas trop dégueu. Ça te revient moins cher et surtout tu peux le faire évoluer.
Là c'est des PC, tu peux les faire évoluer aussi. Hein,
mais... Oui, bien sûr, mais quel intérêt de mettre.
Ouais, je pense que c'est le début encore. On verra comment ça évolue. Ouais, c'est vraiment.
Si ça se trouve, ça sera comme Android, quoi. Enfin, on se moquait bien de la tête du G1 là, le téléphone Android, et puis finalement aujourd'hui.
Moi, je pense qu'il y a surtout une stratégie qui va être plus visible quand ça continuera à évoluer. Mais bon, bref, on continuera à regarder ça, évidemment, c'est une initiative intéressante. Bon, on peut parler rapidement du casque de réalité virtuelle de Sony, le très bien nommé HMZ T3Q, qui est quand même très très décevant. Je sais pas si on a besoin d'en parler. Ouais, l'Oculus Rift est beaucoup plus intéressant. Le nouveau prototype d'Oculus Rift, donc ce casque de réalité virtuelle, là aussi un projet qui a commencé sur Kickstarter et puis qui a levé des millions et des millions après. Nouveau prototype avec écran AMOLED qui a une persistance et une latence réduite. La latence s'approche des 20 millisecondes qui sont l'idéal pour ce type d'appareil. Et en plus, une caméra qui est posée devant vous qui va traquer votre tête, donc qui va pouvoir traquer votre position et également vous donner l'impression que vous déplacez dans l'environnement, non seulement quand vous déplacez votre regard, mais aussi quand vous vous déplacez vous, puisqu'il traque les LED qui sont sur l'appareil eux-mêmes.
Si tu t'avances, en fait, ça avance. C'est le head tracking comme tu as dans les simulateurs de vol, par exemple, où tu mettais une casquette avec des LED ou des trucs réfléchissants et t'avais une caméra infrarouge qui envoyait de l'infrarouge. Ouais. Et qui regardait un peu ces LED et qui du coup était capable de détecter si tu inclinais la tête, si tu t'avançais avec l'écartement des LED et tout ça quoi.
Donc
c'est très malin, c'est top. Hein.
Ouais, ça on l'attendait pas en fait. C'est un petit peu le petit truc en plus. À chaque fois qu'ils ont montré un nouveau prototype, il y avait des choses plus intéressantes en plus. Ah, ils sont vraiment en train de peaufiner leur truc. Ouais.
Mais moi, ça vous inquiète pas que Sony soit en train de travailler sur un concurrent de l'Oculus Rift? Ce que je veux dire, c'est que les gars qui sont derrière l'Oculus Rift ont l'air de pondre un produit qui a vraiment l'air exceptionnel. Et puis moi, j'espérais secrètement que Sony et Microsoft se disent bon, on va leur laisser terminer leur truc et puis on va l'adapter sur nos consoles. Et puis j'ai l'impression que ils travaillent chacun sur leur truc et puis du coup, l'Oculus Rift, j'ai peur que ça devienne juste un truc, un accessoire pour PC et que ça en reste là alors que c'est un produit vraiment exceptionnel. Ouais. Moi, ça m'inquiète en fait de voir Sony bosser sur leur propre version
Si c'est le truc qu'on a vu, le HMZ T3Q là,
ils peuvent arrêter. Hein.
Ils peuvent arrêter maintenant parce que c'est vraiment, l'angle de vision est beaucoup plus réduit.
Très mauvais.
C'est vraiment pas convaincant. Mais j'aurais pensé ça un petit peu, mais ils ont tellement d'argent, Oculus, et ils ont tellement de grands noms derrière eux, et ils sont en train de tellement peaufiner leur truc. Du coup, on a vraiment dépassé le stade du petit projet Kickstarter qui réussit. Là, on a vraiment une industrie qui est en train d'observer ce qu'ils font. Alors, on est encore à 50-50, hein, il est encore très possible qu'ils développent leur truc et que finalement quelqu'un d'autre arrive et dise, nous on a notre produit, on est un grand nom déjà établi, donc c'est notre produit qui va être adopté. Mais là, ils ont vraiment leur chance. Ils commencent à vraiment avoir leur chance chez Oculus, je pense.
Ouais, mais après Sony, il faut savoir que c'est le grand amour du casque à réalité augmentée et tout ça, puisqu'ils ont démarré avec le Glastron dans les années 90. Des casques qui nous en sortent, je dis pas un par an, mais on n'est pas très loin de ça, quoi. L'année dernière, on avait un casque 3D pour la PS3, ou l'année d'avant, je sais plus. Enfin, bref, chaque année, on va avoir un nouveau casque. Peut-être qu'un jour, ils arriveront à faire la même chose qu'Oculus Rift, mais je pense que là, ils sont loin derrière. Et puis surtout, je sais pas s'ils ont vraiment la même philosophie de bidouillage parce qu'au départ, quand même, le projet Oculus Rift, c'est limite du hack pur et dur, tu vois.
C'est de la bidouille. Hein.
Je sais pas.
Enfin, là,
si
on a dépassé le stade de la bidouille.
Oui, non, mais d'accord, mais ils ont commencé par la bidouille. Ils se sont autorisés des choses que peut-être une grosse société ne s'autoriserait pas par perte de temps et d'argent, tu vois. Je sais pas.
Le projet Christine, avant de passer aux sociétés que Sony rachète avec Gaikai, qui avait d'ailleurs provoqué des grandes discussions entre toi et moi, Yann.
mais c'était on live.
Voilà, c'est ça. Le projet Gaikai de Razer, encore eux, qui est une sorte de Phone Blocks du PC. Vous savez, Phone Blocks, c'était ce projet un petit peu...
Projet Christine, tu voulais dire.
Qu'est-ce que j'ai dit? Le projet Gaikai, pardon.
Voilà.
Je disais projet Christine, oui. C'est-à-dire que c'est une sorte de PC modulaire qui aurait une échine dorsale, non, une spinal cord,
une épine dorsale.
Une épine non, c'est
une colonne vertébrale.
Merci Cédric, okay. Voilà. Tu gagnes le prix du rendez-vous tech. Donc la colonne vertébrale sur laquelle tu viens brancher différents éléments qui vont te permettre de faire évoluer ton PC plus facilement. Alors c'est genre tu viens brancher la partie processeur, puis tu branches la partie RAM, puis tu branches la partie carte graphique. Et encore une fois sur Twitter, certains m'ont interpellé en me disant « Ah alors voilà, ça existe aussi sur PC, qu'est-ce que t'en penses ?» Certains se souviendront qu'à l'époque de PhoneBlocks, j'avais pas été convaincu parce que ce que je disais, c'est que sur le moyen terme, ben les connexions elles-mêmes évoluent. Et donc, il est compliqué d'avoir un appareil qu'on va garder vraiment longtemps parce que les éléments qu'on va venir connecter vont plus être adaptés parce que les connexions ont besoin d'évoluer elles aussi. ZTE, d'ailleurs, le fabricant chinois, lui aussi essaye de faire un phone box comme Motorola. Donc, il y a plein de gens qui essayent de faire ce genre d'appareil. Mais encore une fois, alors peut-être que j'ai une vision un petit peu restreinte, mais encore une fois, moi, je suis en train de regarder mon PC et comment je peux le faire évoluer. Eh ben, oui, je peux changer la carte graphique. Mais si je commence à regarder le processeur ou la RAM ou d'autres choses, tout de suite les choses ont évolué. Donc pour les experts, moi j'ai un processeur, un Core 2 Quad qui est en LGA 775. Et ben pour prendre un processeur d'aujourd'hui, il faudrait que j'ai un socket LGA 1150. Et ben donc voilà, je peux pas prendre un processeur d'aujourd'hui.
Oui, mais là la différence c'est que la carte dans un téléphone, la carte mère, elle est collée au processeur, quoi, et c'est terminé.
Pas si les trucs sont modulaires à la base. Si le phone block c'est prévu pour être modulaire. Bon, enfin bref, c'est pour ça que moi j'y crois pas. Enfin j'y crois pas. En plus, le projet Christine de Razer, qui est un projet intéressant, il faudra qu'ils aient les modules spécifiquement designés pour cet appareil. Donc c'est pas juste que n'importe qui peut prendre une carte graphique, le foutre dans le module et puis ensuite l'insérer dans l'épine dorsale, on avait dit, c'est ça?
Non, la colonne vertébrale.
Donc bref, moi je demande qu'à voir hein, s'ils réussissent à le faire marcher, tant mieux, mais la promesse de ce truc là était de garder en gros un appareil complètement modulaire et de jamais de ne pouvoir changer que certaines petites parties pendant des années et des années. Et sur le court terme, évidemment c'est possible, c'est le principe même du PC. Sur le moyen terme, même, j'y crois pas trop. Si vous pensez pouvoir garder votre téléphone 5, 10 ans.
Mais c'est là où je te rejoins pas. C'est que, parce que tu penses t'as raison de faire le parallèle avec les PC aujourd'hui, mais si aujourd'hui tu découpes la carte mère en plusieurs morceaux, et que justement, tu vois, toute la partie inhérente au connecteur de ton processeur et tout ça, et à l'intérieur du module même, et que ensuite toutes les autres connectiques font juste, la circulation d'informations entre l'appareil photo et le processeur et le traitement du stockage et ce genre
mais
de choses.
Mais c'est ça le problème, c'est que je pense que tu peux pas avoir que un set de câbles déjà déterminés. C'est pour ça que les connectiques évoluent. Tu peux pas dire on va faire, enfin des câbles, je schématise, hein, les circuits sur le circuit imprimé.
Oui,
tu peux pas dire bon, on va se dire qu'on a 40 connexions et puis les connexions on peut les utiliser comme on veut. Ça marche pas comme ça. Donc bon, écoute, on verra, hein, peut-être que on prouvera que j'ai tort et tant mieux, j'en profiterai aussi. les services et le reste, les autres choses dont on voulait parler. Donc Sony annonce PlayStation Now, qui est un système de cloud gaming pour bien sûr les consoles qu'ils ont déjà. C'est un service basé sur Gaikai qui est un équivalent de OnLive dont on avait beaucoup parlé il y a 2 ans. C'est-à-dire que le jeu tourne sur des serveurs distants, il vous envoie uniquement l'image et vous vous envoyez à ce serveur les instructions par la manette et le serveur vous renvoie uniquement l'image. Donc vous pouvez avoir n'importe quel jeu qui tourne sur n'importe quelle machine. Alors évidemment on pense aux consoles, hein, PS3, PS4 et PlayStation Vita, mais ils ont annoncé aussi qu'il serait possible d'utiliser à terme sur des télés, sur des téléphones, etc., etc. La grosse question, c'est le prix de cet abonnement, parce que ça serait une sorte d'abonnement qui vous donne accès à énormément de choses. Mais c'est super cool, ça, non ?
Ouais, ça veut dire que tu peux jouer à des jeux PS4 sur ta PS3, quoi.
Bon, on n'y est pas encore. Je pense que la puissance de calcul des PS4 coûterait plus cher à faire, alors qu'une ferme de serveurs PS3,
oui,
c'est plus possible. Donc non, en fait, c'est que tu peux jouer, c'est la rétrocompatibilité en fait. Tu peux jouer au jeu PS3 sur ta PS4. Pardon, Yann.
Non, mais ils ont annoncé qu'ils feraient également l'inverse là, ce dont a parlé Cédric. Mais voilà, enfin moi, mon point de vue, il a pas changé sur le sujet. Je pense que c'est
toujours
vous à l'échec.
Oh là là.
Non, mais enfin, c'est pas que c'est vous à l'échec, mais bon, on a vu ce qui s'est passé avec OnLive.
C'est un problème de licence sur OnLive, pas un problème technique. Hein.
Oui, mais bon,
ils
ça
avaient
pas
de jeux.
Ils ont pas eu des milliards d'utilisateurs non plus.
Mais parce qu'ils avaient pas de jeux, c'était les jeux.
C'est tout. Hein, ouais. Je pense que là, il y a un problème de catalogue. Ouais.
Oui.
Ouais. Bah écoute, ok.
Toujours pas.
Non, mais tu sais, c'est un petit peu, enfin, on en a parlé un milliard de fois, mais c'est un peu le gars qui a l'habitude de regarder des Blu-ray, et puis un jour tu lui dis, est-ce que tu veux regarder des DVD, quoi. Il s'est habitué à un certain confort, et puis là, payer un service comme
celui-là.
Ouais, c'est entre cassette vidéo et DVD, tu vois, t'as le lag plus la compression vidéo en plus. Et puis le truc, c'est que les jeux sont une cible mouvante. Aujourd'hui, on est habitué à un certain standard qui va évoluer. On était en train de parler de 4K tout à l'heure. On va être habitué à une certaine qualité visuelle et le streaming sera toujours en train de galoper derrière. Il ne va jamais pouvoir l'égaler, à moins qu'on ait des débits de ouf, mais on est loin d'avoir ça, là.
Je pense que la question, c'est de savoir à quel prix ils vont le faire. Si tu as accès à un catalogue vraiment conséquent, s'il l'inclut dans le prix du service PlayStation Plus ou avec un petit supplément, tu dis, c'est comme Netflix, quoi. Tu payes 9,90€ par mois, on va dire, hein, au hasard, ou un peu moins, et tu as accès à un énorme catalogue de jeux PlayStation 3.
Si c'est à 9€ et moins, ça peut marcher. Par contre, si c'est à plus, je pense que là, ils peuvent oublier tout de suite. Hein.
Ouais.
Non, mais si jamais tu devais acheter Star Trek 3, le prochain qui sort, c'est la première fois que tu dois le voir, tu dois l'acheter. Tu vas l'acheter sur Blu-ray ou tu vas le regarder sur Netflix ? Ou sur Neuf Télécom ou je sais pas.
Moi je vais le voir au ciné, mais
ouais voilà, tu vas le voir dans les meilleures conditions possibles. Tu
ça dépend. Mais regarde
moi,
House
cinéma,
of Cards
c'est pas les
par exemple.
Conditions possibles.
Mais House of Cards par exemple, c'est pas tout à fait vrai ce que tu dis, Yann. House of Cards qui est une série produite par Netflix, tu peux tout à fait la regarder sur Netflix en HD si tu as accès à Netflix et ça marche très bien.
L'occurrence c'est le seul endroit où tu peux le regarder, House of Cards. Mais
bah oui.
Mais oui, non, la qualité est très bonne, mais tu pourrais avoir une meilleure qualité, tu as le choix. C'est ça le problème avec services de streaming, c'est que tu as le choix entre la qualité ultime ou une qualité de streaming. Donc aujourd'hui, moi, en tant qu'adepte des jeux vidéo et fan, je veux la meilleure qualité qui soit, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas. Mais voilà, c'est...
Bon. Tu es comme moi qui... Ouais, tu es comme moi pour les téléphones et les PC modulables. tu ne veux pas y croire même. Bon, ok.
Bah, on verra bien.
En tout cas, pour les gens qui ne veulent pas croire au miracle, sachez que vous allez avoir la preuve que vous avez tort parfois, puisque un OS complètement mort et enterré là aussi est en train de ressusciter. WebOS qui revient. Alors attention, WebOS, pas en système de téléphone, pas en système de tablette, ni rien de tout ça. En interface de Smart TV pour les télés LG. Bon, c'est pas le retour du Christ non plus. Mais franchement, je sais pas si vous avez vu l'interface.
C'est très jolie.
Hyper simple, elle est jolie. C'est simplement une barre sur le bas de l'écran qui est en fait on pourrait l'assimiler aux cartes de WebOS pour ceux qui s'en souviennent, une barre sur le bas de l'écran qui bouffe à peu près un tiers du bas de l'écran sur lesquelles vous pouvez passer l'une après l'autre, qui est hyper simple, c'est une ligne et vous avez toutes vos applications sur cette ligne. Pas mal, moi je dis, c'est une bonne implémentation
c'est bien
d'une
fait,
Smart
c'est
TV.
C'est bien
quoi.
Animé, c'est joli et tout ça. Disons que plutôt que d'avoir, et là je pense que LG a eu un peu raison, ils sont partis sur des bases déjà existantes plutôt que de vouloir réinventer leur interface. D'ailleurs, LG avait des interfaces Smart TV qui étaient particulièrement pourries, sauf sur les télé LG qui étaient équipées d'Android, parce qu'il y en avait quelques-unes quand même, des télé Google TV d'ailleurs qui ont été mises à jour il n'y a pas longtemps. Là, en fait, ils veulent s'affranchir de Google sur la télévision en lançant des télés. D'ailleurs, c'est 70 ou 75% des télés l'année prochaine LG, enfin qui vont sortir cette année, vont être équipés de WebOS quand même. Hein, donc, c'est pas négligeable.
Oui, ils vont fort. Ouais.
Du coup, ça devient leur OS propriétaire, hein, puisqu'ils l'ont racheté. Donc, bon, aujourd'hui, ils ont pas trop parlé d'un peu des développements externes et tout ça. Si demain Plex débarque en application, je pourrais être tenté.
D'accord.
Écoute, c'est pas mal.
Bah, c'est franchement l'interface Smart TV la plus convaincante que j'ai vue jusqu'à maintenant.
Ouais, qu'elle soit web, enfin, qu'il l'appelle WebOS ou qu'il l'appelle LGOS, il y aurait aucune différence. Hein,
ouais, grand chose à voir avec.
Ouais, voilà.
C'est vrai. Bon, on va passer sur les dernières news. Je pense qu'on a fait le tour. Gorilla Glass antibactérien déjà intégré, tout ça, qui tue les bactéries pour vous. Des manettes iOS, des téléphones Arcos 4G à moins de 230€ encore chez Arcos. Bref, toutes ces petites choses-là sont intéressantes. Je pense pas qu'il y ait de quoi en faire tout un plat. Donc, je pense qu'on peut refermer cette grosse page CES 2014. Juste en conclusion, bon.
Ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas.
Ouais, bon cru ou mauvais cru, CES 2014?
Je dirais décevant en ce qui me concerne. Ouais. Il y avait des trucs sympas, mais c'était pas renversant, quoi.
Bah, c'est le problème du fait que maintenant les gros constructeurs réservent leurs annonces pour des moments où ils sont seuls, c'est-à-dire qu'ils créent leur propre conférence de presse.
Exactement. Ouais.
Cédric?
Je partage pas tout à fait le même avis. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était décevant d'un certain point de vue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment de wow effect monumental. Par contre, après, bon, évidemment, Yann, comme c'est un vieux con et qui s'intéresse pas à l'Internet of Things, forcément, ça l'intéresse moins. Mais moi, j'ai trouvé que justement, toute cette partie-là commençait vraiment à prendre beaucoup d'ampleur. Et que, tu vois, parce que franchement, le CES, non mais quand on se rappelle quand même du CES les années précédentes, c'était essentiellement des tablettes et des télé 3D. Les deux trois dernières années, c'est que ça. C'est-à-dire chaque constructeur arrive avec une tablette ou un smartphone. Là, on arrive vers des objets différents. Il y a même la voiture qui s'invite au CES et tout ça. La maison en général et tout ça. Et du coup, j'étais plutôt satisfait de ce côté-là. Et ça m'a donné envie de découvrir certains produits, tu vois.
Mais du coup, si jamais je te demandais un produit que tu ne connaissais pas, que tu as découvert au CES et que tu achèteras cette année quand il sortira, tu me dirais lequel ?
De quoi, pardon ?
Mother,
un
non ?
Produit qui a été découvert.
Bah oui, Mother, mais en fait, je l'ai acheté avant le CES.
Ouais, voilà. Tu vois, mais un nouveau produit, un truc que tu as découvert au CES et que tu vas acheter quand il sortira.
Là, comme ça, tout de suite, là, comme ça.
voilà.
Bah, la Mercedes.
À la question.
Ouais, si j'achèterais bien l'Audi, mais j'ai pas le budget.
Ouais, c'est sûr que dit comme ça, Yann, t'es un peu assassin.
Ouais, mais
faux,
mais non. Mais si, l'Oculus Rift. Voilà.
Tu l'as pas découvert aussi.
Mais non, mais tu connais ça.
Non, attends, cette version-là avec caméra externe, oui.
Ouais.
Non, mais là, évidemment, si je m'étais pas intéressé du tout. En fait, le truc, c'est que Mother a été présenté à un événement qui est un pré-CES à Paris.
Non, mais disons, Cédric,
décembre. Donc,
moi je comprends.
Mother, c'est clair que c'est génial, quoi. Mais
Mais je comprends ce que tu dis, Cédric. Quand même, généralement au CES, moi, je suis un petit peu déçu, ou en tout cas un petit peu blasé. Là, en tout cas, après avoir parlé avec vous, je suis un petit peu plus enthousiasmé. Il y a des choses quand même marrantes et des tendances qui se dessinent, et même certains produits qui sont peut-être intéressants. Donc, évidemment,
Glass,
c'est pas les grosses. c'est pas les grosses conférences de presse Google, Apple, etc.
Ouais.
Mais c'est un petit peu mieux que ce que j'avais vu les années précédentes, on va dire. Bon, allez. CES terminé, news et rumeurs engagées. On se lance sur donc les news et les rumeurs qu'il faut retenir depuis 15 jours, même depuis un petit peu plus. Première chose, Windows Threshold, dont on avait déjà un petit peu entendu parler, qui est la prochaine grosse étape, le prochain gros développement de Windows, s'appellerait, selon Paul Theroth, un blogueur expert sur les sujets de Microsoft, s'appellerait bien Windows 9 et il sortirait au printemps 2015. c'est intéressant ce qu'il a dit, c'est que il serait bon d'une part annoncé à la conférence Build des développeurs de Microsoft ce mois d'avril, dans quelques mois. Et il y aurait une intention plus ou moins voulue de faire de Windows 8 le Vista de cette génération et de Windows 9 le Windows 7, à savoir de Windows 8 le gros truc pourri que personne n'a aimé, pour faire de artificiellement presque de Windows 9 le truc qui pour lequel les gens vont pouvoir dire ah oui non mais Windows 8 il était
pourri, ça c'est
Windows
carrément
9 mieux. Voilà Windows 9 celui-là il est bien. Bon, j'ai jamais caché le fait que j'aime beaucoup Windows 8, j'en suis très content.
Moi aussi.
Et bah toi aussi Cédric, Yann, toi tu l'aimes bien ?
Oui, tout à fait, je suis très satisfait.
Ah bah voilà. Donc mais bon, c'est marrant de voir que cette alors moi je pense que c'est un petit peu de perception hein, plus que du réel, mais que ça ils vont jouer là-dessus peut-être pour donner à Windows 9 une image positive.
Bon, mais en tout cas printemps 2015.
Oui, le menu démarrer quelques trucs et puis bon. Bref. YouTube, Google qui rachète Nest, on en a parlé. YouTube et Netflix en 4K, on en a parlé. L'App Store qui vend 10 milliards de dollars de produits en 2013, c'est ce qui est l'équivalent de 15 milliards de, enfin ce qui donne au total 15 milliards de dollars aux développeurs depuis le début du lancement de l'App Store. C'est beaucoup. 8 milliards de plus sur ces 15 sur ces 15 milliards de dollars aux développeurs, il y a 8 milliards qui ont été distribués ces 12 derniers mois. Ça fait des sous. À propos de smartphones, vous m'arrêtez hein, s'il y a des choses qui vous intéressent. À propos de smartphones, les parts de marché, très intéressante cette étude qui nous dit que en novembre 2013, Android est leader et que Windows Phone est un petit peu, enfin très clairement, en train de devenir le troisième acteur. On le savait déjà. Les chiffres vous étonneront peut-être un peu. En France, Android a 65,5% de part de marché. Comme quoi, les smartphones ont vraiment envahi les gammes, puisque on se doute bien qu'il y a quand même beaucoup de téléphones d'entrée de gamme qui sont passés sous Android aujourd'hui. iOS est tombé à 18,6% de l'ensemble des téléphones portables, ou des smartphones plutôt, et Windows Phone à 13% en France.
Donc, ça c'est vraiment incroyable. Ça c'est un truc qui me
c'est grâce à moi
vraiment.
Mais malheureusement je
pense que ouais que t'as au moins un digit là-dedans de responsabilité.
Les 1% de Cédric Bonnet.
Ouais.
Et le truc qui fait plaisir au old school, BlackBerry 2,2%.
Ouais, BlackBerry d'ailleurs là ils ont 18 mois pour se remettre et après je pense que là c'est vraiment la fin.
Ah bah oui, on est d'accord.
C'est foutu.
Bah le BlackBerry 10 qui n'a pas eu les résultats escomptés.
Non, et puis là ils reviennent au clavier, ils reviennent avec des terminaux pas chers. Enfin, ils refont la stratégie du BlackBerry qui avait fonctionné à l'époque, mais je sais pas s'ils se rendent compte que le monde a changé en fait.
Ouais. Mais bah bon. Ils ont essayé la nouvelle stratégie qui a pas marché non plus, donc c'est compliqué hein. Moi, j'aimerais pas être à la tête de BlackBerry, je saurais pas quoi faire franchement.
Non.
Bon,
t'as acheté un iPhone.
Par exemple, Edward Snowden a fait une déclaration pendant les vacances en disant que sa mission avait été accomplie. Et je pense que si sa mission est effectivement d'ouvrir les yeux
de
du
mourir.
Monde sur ça c'est pas encore le cas, mais d'ouvrir les yeux du monde sur les activités des agences d'espionnage américaines et peut-être du monde entier. Bah oui, je pense qu'effectivement sa mission est accomplie. Et d'ailleurs, pour ceux qui se disent que les choses n'ont pas du tout changé, bon. Ils ont tout à fait raison, mais le président Obama s'apprêterait à annoncer des changements assez importants sur le fonctionnement de la NSA, sans doute le 17 janvier, j'en vois un qui pouffe.
Oui, plus de consultants externes sans doute.
Peut-être, oui, par exemple. Non, mais l'application des règles qui s'appliquent aux citoyens américains, aux citoyens étrangers. Mais bon, en même temps, comme ils espionnent les citoyens américains, je vois pas très bien ce que ça changerait.
Rien du tout.
Bon, attendons de voir, laissons-lui le bénéfice.
Non, mais il va dire des choses qu'il ne tiendra pas. Mais il va les dire.
Le truc, c'est que t'as aucun moyen de vérifier. Bah, voilà. C'est ça le problème.
C'est pareil, demain il va te dire, écoutez, finalement la NSA, on a décidé qu'elle allait s'occuper du jardin de la Maison Blanche. Et du coup, ils vont tous arriver au boulot habillés en jardinier, mais ça veut pas dire qu'ils vont venir faire le jardin, tu vois.
Ok, c'est tout à fait possible, mais il y a aussi, si on est un petit peu sérieux aussi, il y a des mécanismes juridiques qui font qu'on peut contrôler. L'un des gros problèmes de ce scandale de la NSA, c'est que non mais justement le gros problème de ce mécanisme de la NSA, c'est que l'instance judiciaire qui était censée accorder ou ne pas accorder ces brevets, ces mandats aux agences d'espionnage n'incluait pas de parties opposées. Et c'est un gros problème légalement parlant, enfin dans les principes légaux, il faut qu'il y ait un public service advocate, pas un public service, mais une personne qui soit là pour créer un équilibre des pouvoirs, pour dire est-ce que cette demande est vraiment dans l'intérêt du
oui, bien sûr.
C'est le principe. Non, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, si ils incluent, une personne dans ce tribunal, dont le seul but est de créer l'opposition avec les autres juges pour voir si vraiment les intérêts et les droits des citoyens sont respectés, peut-être que ça créera un équilibre. C'est le système adversarial qui fonde les décisions de justice, le fonctionnement démocratique. Donc
voilà, c'est-à-dire que le mec il va me dire bon, est-ce qu'on peut écouter Patrick Béjat sur son iPhone? Le mec il va dire ah non, il y a aucun intérêt, machin, ça va pas, il faut pas faire ça. Le mec va dire d'accord. Ben merci John de nous avoir donné ton avis. Bon alors vas-y, c'est quoi son avis? C'est quoi son...
Oui, non mais le problème effectivement.
John, tu veux pas aller nous chercher deux cafés à la machine, s'il te plaît? Bien sûr. Voilà.
Bon, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Oh, le truc, c'est que si tu pars de ces principes, non, mais bien sûr, mais si, non, mais attends. Alors, il y a quand même des.
Non, mais on
des,
peut donner l'illusion aux gens, effectivement. Tu as
non,
raison,
mais l'illusion. Hein. Non, le problème, c'est que
saluer le fait qu'ils aient amorcé.
Ouais, voilà. Ils aient embauché un scénariste d'Hollywood pour écrire deux trois trucs qui vont nous faire rêver.
Après, je sais pas, suis mauvaise langue, Patrick. C'est incroyable.
Non, mais je veux dire, si on part de ces principes-là. Le problème, c'est qu'on ne peut plus rien faire sur rien. Tu vois, si on se dit ah bah oui, de toute façon, s'il nous dit ça, c'est que ça. Je veux pas dire que tout ce qu'il va annoncer Obama, on va y croire, ça, évidemment. Mais il y a quand même des systèmes où il y a une.
Mais François Hollande aime faire du scooter dans Paris, c'est tout. Il a rien à cacher.
Bon, on en reparlera quand les annonces auront été faites, ça sera plus simple. Et à ce moment, on pourra se dire que voilà. Oui, John va aller nous chercher des cafés.
Voilà.
Le CSA veut contrôler YouTube et Dailymotion. Entre parenthèses, créer des taxes pour la contribution à la culture française.
Ouais. Bah, Dailymotion, je pense qu'ils vont y arriver. Hein.
Bah, il y a des chances.
Orange et tout ça, il n'y a pas de problème. YouTube, par contre, là,
ils vont avoir des problèmes, je pense.
Bah, sur le principe, si on n'est pas contre, là encore, je me fais l'avocat du diable, hein, je suis obligé.
Il
n'y
avait
parce
pas
que...
iTunes dans la liste d'ailleurs, parce qu'il me semble avoir vu passer iTunes quelque part.
Je crois pas, mais peut-être. Je sais pas. Mais bon, disons que si on est pour le principe de la contribution à la culture française, qui est observée par, vous savez que les chaînes de télé donnent un certain montant tous les ans pour contribuer au développement de la culture française. Ce montant est redistribué par l'intermédiaire du CNC notamment, et ça aide à financer des films français qui font que le cinéma français, en partie ce système,
existe.
Fait que le cinéma français existe et est le deuxième cinéma au monde.
Dommage.
Donc, alors voilà, certains disent oui peut-être, mais ça, si les gens, si les films existent alors que personne ne va les voir,
voilà,
c'est quand même
ça.
Un problème. Mais bon, je vous laisse réfléchir sur la question qui est plus profonde qu'il n'y paraît. Et pendant ce temps-là, je vais vous asséner encore un petit truc sympathique pour vous dire que le dossier médical personnalisé ou personnel a coûté 500 millions d'euros et qu'il y a eu moins de 500 000 dossiers créés.
Parfait.
C'est pas mal, non?
De l'argent bien investi. Ça fait combien par dossier en moyenne?
1000 euros, non? Quelque chose comme ça?
Ouais, c'est pas mal.
Ouais. Bon, le projet va être entièrement revu au départ. Je crois qu'à un moment, quand ça merde tellement...
Ça va coûter 500 millions de plus, mais être revu de zéro, hein, pas de problème.
Bah écoute, Entre parenthèses, il y a, deux ans, on n'avait que 100 000 dossiers créés, donc ils ont fait tourner la machine. Mais ouais, bon, la V2 va arriver. Le truc, c'est que c'est effectivement...
1 euro par personne, ils auraient mieux fait de nous filer à tous un MacBook Air, c'était réglé. Si vous avez de l'argent
à dépenser. Moi, je suis pour. Version 2, ok, on fait ça.
Voilà.
Très bien. Le prototype Android de Nokia, machin, Normandie, on le voit, il se confirme un petit peu. La CNIL qui délivre une amende à Google pour les problèmes d'unification des règles de confidentialité des données, tout ça. 150 000 euros quand même.
Bon, ouais, c'est pas le maximum qu'ils peuvent donner, la CNIL
Non, c'est plus. C'est 300 000, je crois, le maximum.
Petit joueur.
Oui, ils ont été gentils sur ce coup. Mais enfin bon, c'est quand même la plus grosse amende qu'ils aient jamais délivrée. Donc bon.
C'était dans un article que tu avais linké sur Twitter où j'avais vu que Google gagnait 6 dollars par internaute au monde chaque jour.
Mm-hmm. Ouais.
Donc leurs 150 000 euros là, c'est quoi? C'est une demi-heure de navigation,
oui,
c'est ça?
C'est pas grand-chose, non, c'est certain. Mais je navigue beaucoup, oui, c'est vrai.
Bah oui.
Non, ils gagnent en fait sur les utilisateurs d'internet, ils gagnent 6 dollars. Je sais plus, c'est par jour.
6 dollars, je sais plus combien.
C'est par jour. Ouais.
Et donc c'est pour ça qu'ils veulent que de plus en plus de gens utilisent internet, parce que de toute façon ils sont partout. Dès que les gens utilisent internet, ils gagnent de l'argent. Donc ils répandent internet partout dans le monde. Ah. Et moi je trouve que c'est gagnant-gagnant. Si le monde entier peut avoir internet dans,
écoute, moi, s'ils me font la fibre pour 0 euro, je veux bien leur apporter 6 dollars par jour. Hein.
C'est une grande question. Est-ce que tu serais prêt à vendre, entre guillemets, tes informations personnelles
à Google? Ils ont déjà tout.
Oui. Donc, tant qu'à faire, autant prendre la fibre.
Là, c'est plutôt l'inverse. C'est bon, qu'est-ce que vous me donnez contre tout ce que vous avez sur moi, quoi? Tu vois?
Alors, l'autre question, c'est est-ce que tu serais prêt à ne plus utiliser aucun service Google, y compris le moteur de recherche, pour qu'ils arrêtent de traquer tes informations? Non. Toi, ça te va. Ok. T'es pas comme Yann.
C'est pas
qui...
que ça m'aille pas. Non, c'est pas
moi,
ça.
Je pourrais pas vivre sans Google. Hein. Ça, c'est. des non, fois, mais ça me désole quand même, mais.
Exactement.
Ça me déconnecter mon compte à chaque fois et tout, pour qu'ils puissent pas traquer mes navigations, mais au bout d'un moment, ça te saoule. Et puis voilà, ils savent. Ils connaissent tous mes vices, tous mes trucs. C'est malheureux, des fois, tu vois.
Bon, une autre chose qui est un petit peu malheureuse aussi, et on va conclure avec ça, c'est rapidement, on va pas en faire des caisses, mais
c'est le cas de le dire.
très bien. Taxi contre Uber, taxi contre VTC. Visiblement, les taxis qui sont pas hyper contents et qui font la grève et qui font des opérations escargot. Certains, je suis sûr que c'est pas tous. Hein, je suis même convaincu que c'est très très peu de gens, ont rien trouvé de mieux à faire que d'aller casser une voiture Uber avec les occupants à l'intérieur, hein, les gens qui étaient en train de faire leurs courses, se faire transporter par une voiture Uber. Ils sont allés casser, ils ont crevé les pneus, ils ont cassé les vitres, il y avait du sang partout visiblement, personne n'a été blessé gravement, hein, mais il y a quand même eu des blessures, parce qu'ils n'étaient pas contents qu'il y ait une voiture Uber. Voilà, qui passe. Alors, évidemment, il faut certainement pas penser que tous les chauffeurs de taxi cautionnent ce genre d'attitude. Je suis sûr que c'était quatre excités débiles qui ont fait une connerie. Mais alors, vraiment, s'il y avait un moyen pour discréditer encore plus les taxis parisiens qui ont déjà pas une super bonne image, moi, ça me, déjà que j'avais pas hyper envie de prendre des taxis, mais là, plus jamais, quoi. Tu
et
te rends compte?
Tu sais quoi? J'ai reçu les vœux de taxi G7 aujourd'hui, jour de grève. Mais c'est pas une blague, hein.
J'ai appris un autre truc aussi sur les taxis. On en parlait avant l'émission, Cédric. En fait, les licences de taxi, évidemment, sont limitées en nombre, mais en réalité, elles sont gratuites. Elles sont attribuées par la préfecture gratuitement, sauf que les taxis qui, les premiers qui les ont eus, au lieu de les rendre à la préfecture, ils les ont vendus. Voilà. Je ne sais pas par quel artifice juridique ils ont le droit de vendre les licences, qui en fait sont des licences accordées par la préfecture, donc qui appartiennent à la communauté, hein, à la population.
C'est ça.
Mais bon, ils les vendent. Donc forcément, les gens qui les ont achetés, ils les payent super cher. Donc ensuite, quand ils finissent leur carrière, ils vont vouloir le vendre aussi. Et donc ces licences qui, a priori, au départ, étaient censées être gratuites, sont devenues hyper chères parce que bien sûr...
Mais ils se sont auto-bâchés.
Mais oui, Enfin bref, c'est cette histoire est lamentable, quoi. Et en plus l'image que ça donne de la France, parce que toute cette histoire a été tweetée, retweetée, diffusée sur tous les sites anglophones. Vous vous rendez compte, les taxis qui représentent la vieille industrie, donc l'industrie qui est en train de se modifier hyper vite, et c'est douloureux pour eux bien sûr, hein, je dis pas le contraire, mais qui représente l'industrie existante bousculée par les industries innovantes et nouvelles. Leur réaction, c'est d'aller n'exagérons pas, mais d'aller casser la voiture d'un mec qui a rien demandé à personne. Hein. C'était un chauffeur Uber qui faisait sa course.
Son boulot, quoi.
Ça me désole.
Et donc, du coup, on parlera pas de la loi Amazon qui entre en vigueur. Ah, mais t'as pas vu ça, cette alors, on l'appelle la loi Amazon, mais ça s'appelle pas la loi Amazon.
L'histoire des livres.
Ouais, voilà.
Les livres vont
être plus chers sur Internet que si tu allais les acheter en librairie, en France, hein, évidemment.
Oui, parce que les libraires considéraient que la réduction de 5% qui est autorisée par la loi, plus le transport gratuit, était une concurrence déloyale. Entre parenthèses, le transport peut être fixé à un prix de 1 centime, hein, pour les
tout à fait,
pour Amazon, donc mais là encore, alors je me fais l'avocat du diable, le mot est mal choisi, mais comme pour les histoires de contribution à la culture française, on en avait déjà parlé, mais l'essentiel des livres sont distribués par la grande distribution, qui se concentre sur, allez, je dis un chiffre au hasard, mais sur une petite partie, on va dire une centaine de livres tous les trimestres. Donc, si on ne soutient pas les plus petites librairies, qui eux vendent des centaines, des milliers de références, ces références peuvent disparaître. Et donc, la diversité de la littérature peut être menacée.
Mais tu sais, aujourd'hui, ce qui est reproché aussi à Amazon, c'est par les libraires, et je peux te dire, parce que j'en côtoie dans mon métier, pas tous les jours, mais presque, c'est que eux n'ont pas des murs extensibles et donc ne peuvent pas référencer autant de produits qu'Amazon. Donc l'argument peut aussi être retourné dans ce sens-là, c'est que un petit libraire de quartier, je te parle pas des grandes librairies, hein, mais un petit libraire de quartier aujourd'hui, il a pas la capacité de stocker plus de 100 ou 200 ou 300 références, tu vois. Donc le problème est le même, et y a des petits qui sont pas dans ces 300 références qui sont bien contents d'avoir Amazon, tu vois.
C'est vrai.
Donc moi ce qui me gêne surtout, c'est de faire une loi Amazon, tu vois. Et parce qu'in fine, celui qui est, tu vois, à la limite, ils auraient peut-être dû autoriser, je sais pas moi, une remise supplémentaire pour les libraires, ou j'en sais rien.
Oh, bah, mais ça reviendrait au même, hein.
Oui, mais enfin oui, sauf que là il y a une différence, c'est que en faisant cette loi qui est censée aider les libraires et tout ça, tout ce que ça fait, c'est juste l'interprétation de la loi qui est faite par les consommateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, celui qui sent pénalisé, c'est... Et en plus, on te culpabilise presque, tu vois, de commander sur Amazon, parce que tu fais, c'est mal. On te culpabilise de télécharger ton MP3 parce que c'est illégal. Là, la différence, c'est que tu achètes quelque chose, tu donnes de l'argent. Et aujourd'hui, on te culpabilise d'aller acheter sur Amazon. Il vaudrait mieux aller acheter dans la petite librairie à côté de chez toi.
Toi, Yann, qui est expatrié depuis quelques années maintenant, ça se passe comment, les choses dans ce genre de situation au Canada ?
Bah écoute, je n'ai jamais été dans une librairie au Canada, je suis entièrement numérique. Non mais c'est vrai.
Non mais est-ce qu'il y a ce genre de débat ? Est-ce qu'on discute du fait que telle industrie est en train d'évoluer et qu'il faut protéger les anciens ? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils entendent de la France et ils disent, voilà, eux au moins ils savent protéger leurs industries existantes, ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qu'ils critiquent, ou est-ce que c'est même pas une question qu'on évoque ?
Non, c'est pas vraiment une question qu'on évoque. Enfin, à part des trucs, ce que j'entends souvent, c'est que au Québec, on fait plus attention pour consommer québécois. Tu vois, c'est-à-dire t'as des enseignes américaines, donc t'as beaucoup de Québécois qui évitent, en fin de compte, voilà. Mais sinon, pour conserver des business par rapport au fait que tu peux l'avoir moins cher d'une façon plus numérique ou autre, non, c'est pas le genre de discussion que j'entends à la télévision. C'est typiquement quelque chose que j'entends plus en France. Et par rapport à ce sujet-là, moi, c'est triste à dire, mais je suis plus pour l'évolution, quoi. C'est-à-dire, moi, je suis pratiquement full Audible ou Amazon, quoi. Chaque fois que je vais je vais jamais dans une librairie, c'est faux, mais je crois que j'y suis allé deux fois je me suis pointé, deux fois ils avaient pas le livre, et ils me disaient, bon, ben, on peut prendre vos coordonnées, on va le commander, et puis, vous l'aurez dans deux semaines, quoi.
C'est pas la peine. Ouais. Et pourtant, au Canada, ils ont quand même des problèmes relativement similaires avec le au Québec. D'ailleurs, amis québécois, on vous salue. mais il y a les questions de la protection de la langue française, qui est très importante là-bas.
Oh oui.
Et qui, pour le coup, peut être assimilée un petit peu. Tu vois, est-ce qu'il faut artificiellement protéger la langue française parce qu'elle est entourée d'anglophones, et est-ce qu'elle pourrait être mise en danger, etc. Donc bon, les débats, je tire un petit peu la chose par les cheveux, c'est pas exactement la même chose, mais
oui, ils sont vraiment très très, ils protègent vraiment la langue française, mais c'est une langue, enfin le français qui est pratiqué ici est différent de celui qui
bien
est
sûr en mais France. Je veux dire, ils veulent protéger leur culture, leur identité, oui, de la même manière beaucoup, que d'une certaine manière on pourrait dire la protection du cinéma français pourrait être assimilée à un même sentiment, tu vois, l'idée de artificiellement vouloir protéger quelque chose, quitte à ce que ça soit un petit peu entre guillemets injuste.
Mais ça, c'est une cause louable, mais ça ne veut pas forcément justifier le fait qu'on règle ce problème en maintenant en vie sous perfusion des business qui n'ont plus lieu d'être en 2014.
Ouais, la presse écrite et tout le reste. Mais d'ailleurs, c'est de la taxe Amazon. J'ai entendu Aurélie Philippetti en parler sur BFM ce week-end, où en gros elle disait que et c'est là où tu vois ils mélangent tout en plus, parce qu'ils te disent la taxe Amazon elle sert à faire exister les petits face aux gros, comme Amazon, comme Google, comme Apple, comme Microsoft. Ouais. Et là tu dis mais attends, oula, mais de quoi tu me parles là? Et si tu veux, je les sens complètement à la masse, et c'est gesticulé, enfin je sais pas, pour moi il y a un problème. C'est que j'ai l'impression qu'ils sont en train d'essayer de découper avec à la petite cuillère, tu vois. Sauf qu'il y a un trou qui est l'équivalent d'un seau d'eau qui se remplit toutes les minutes, quoi. Ils sont pas prêts d'y arriver, hein.
D'accord.
Et malheureusement, on verra, mais l'évolution du marché va faire que de toute façon, à un moment, ils vont finir par crever, hein. C'est con à dire, mais soit c'est tu te réinventes, soit tu participes à ce business en te réinventant complètement, soit tu changes de métier, quoi. Enfin, je sais que c'est facile à dire, hein, mais c'est plus difficile à faire, surtout quand t'as fait que ça toute ta vie. Mais enfin, malheureusement, c'est l'évolution, quoi. Quand les voitures ont débarqué, qu'il a fallu transformer les chevaux en lasagne, on l'a fait, quoi.
Ouh là 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 là.
Non, mais
bon, sur ces mots, je pense qu'on va conclure l'émission. C'est vrai qu'on en revient finalement toujours à la même conclusion, qui est cette comparaison entre l'arrivée des voitures et les anciens modèles de. Et qu'est-ce qu'on va dire
comme pour, voilà.
Mais c'est quelque chose.
Enfin, tout ce que tu veux, mais chaque évolution a entraîné la disparition de métiers, même de savoir-faire des fois, ce qui est déplorable. Mais c'est comme ça. Oui.
Bon, écoutez, pour nous remonter un petit peu le moral, je vais vous lire deux petites reviews sur iTunes. Vous savez que sur iTunes, si vous nous laissez votre commentaire et ou vos notes, un chaton retrouve la vie à chaque fois. C'est garanti.
Grâce à WebOS.
Le numéro 123 spécial pépette financement participatif, le top, nous dit Cédric 84210. C'est pas toi,
moi.
Ça, par hasard.
Non.
Ok.
Bravo.
3-4. Ah, ok. Bravo pour votre émission et ce numéro en particulier. Je vous écoute depuis 3-4 mois avec grand plaisir. Donc, un nouvel auditeur. Merci à toi, Cédric. J'apprends, je m'informe, je fais une veille très enrichissante grâce à vous. Merci et continuez sur ce chemin. 2004 devrait être une bonne année en vous 14. Écoutant. 2014.
2004, ça devait être une bonne année.
Une bonne année aussi, ouais. Merci à toi, Cédric, ça fait très plaisir. Luxorman, donc un Égyptien, qui nous dit RDV très intéressant. Merci Patrick pour les 3 podcasts. Merci de rendre la tech abordable. Merci à toi, Luxorman. La tech abordable, c'est vraiment le but de cette émission, trouver le juste milieu entre la vulgarisation et rester quand même un petit peu intéressant et sérieux. Donc visiblement, ça te convient. Merci à toi, Luxorman. Si comme vous voulez aller laisser des notes et des commentaires sur le système de commentaires d'iTunes, on vous en serait très, très reconnaissant. Dites-nous donc, chers amis, où on peut vous retrouver sur Internet si vous avez des choses à partager avec les internautes. À commencer par honneur aux vétérans du rendez-vous tech, Yann.
écoute, ça n'a pas changé. Je suis toujours disponible sur Twitter, sur Yann Allais, twitter.com/YannAllet, YANNALET.
Donc si vous voulez les avis d'un vieux papy un petit peu bougon.
C'est un peu ça, qui refuse le progrès et qui veut le retour des chevaux.
Très bien, donc juste Twitter.
Oui, juste Twitter, ouais.
Super, et Cédric?
Eh ben moi, vous me retrouvez sur Twitter, bah, Cédric Bonnet, C-E-D-R-I-C-B-O-2-N-E-T. Et aussi sur l'internet du Cybernaut, bah, sur geeking.fr, et aussi dans mon podcast Ask My Backers,
dont on parlait dans l'épisode précédent.
Voilà, c'est ça.
Sur le financement participatif.
Exactement.
Que tu fais avec notre ami Jeff.
Jeff. Mais pas Jeff, l'autre Jeff.
Pas Jeff Clavier, mais Jeff, il dit son nom de famille sur Internet.
Oui.
D'accord, Quadéry. Et voilà, et pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter. Vous retrouverez tous mes liens vers tout ce que je fais à partir de Twitter. C'est très simple, donc NotePatrick. Mais vous pouvez aussi aller sur frenchspin.com pour retrouver les notes de l'émission, venir commenter ce qu'on a dit ou ce qu'on n'a pas dit, même peut-être qu'on a oublié des choses, nous dire ce que vous avez pensé de l'émission et des produits et des services dont on a parlé, nous dire quand on s'est trompé, quand on a eu tort, ça nous arrive un petit peu trop souvent. Et vous pouvez aussi sur ce site frenchspin.com retrouver les autres émissions que je produis, à savoir Upload avec le camarade Cédric Bonnet ici présent, où on vous donne des recommandations d'app et des news, bon, plus trop de news, mais surtout des recommandations d'app pour votre appareil mobile. Donc, si vous cherchez des chouettes apps à vous mettre sur votre téléphone ou votre tablette, c'est par là qu'il faut aller, c'est l'émission Upload. Et l'émission Positron vous donnera des recommandations pour tout le reste, c'est-à-dire des films, des livres, des BD, des trucs super sympas, des séries. Si vous emmerdez un petit peu, et ben Positron c'est le remède à l'emmerdement, parce que on vous donnera des choses à découvrir ou à redécouvrir. Et entre parenthèses, le monde de Charlie que j'ai conseillé dans le dernier épisode a eu tellement de retours positifs, ça m'a fait chaud au cœur. C'est un film que j'avais adoré et j'ai eu des dizaines de personnes qui m'ont dit sur Twitter, sur Facebook, sur Google+, qu'ils avaient vu le film suite à mon conseil et qu'ils avaient vraiment adoré. Donc, j'ai jamais eu un retour comme ça, c'était surprenant. Donc, vraiment, le film a fait mouche et donc l'émission a servi à quelque chose. Ça s'appelle Positron. J'espère qu'elle vous plaira également. Quoi qu'il arrive, nous, on se retrouvera dans le Rendez-vous Tech dans 15 jours pour une nouvelle émission qui sera pleine d'infos intéressantes et croustillantes. D'ici là, on vous fait de grosses, grosses bises et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao!
Salut.
Ciao.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.